Bon début de journée avec BFM Première, il est 6h et bienvenue si vous nous regardez sur les BFM locales. À la une ce matin, la guerre de certains députés contre les fast-foods. Les écologistes proposent de taxer l'ouverture de nouveaux restaurants franchisés avec un montant encore plus élevé à proximité des écoles.
À la une également ce nouveau scandale de violence sexuelle dans une maternelle à Paris. Les parents d'une fillette de 3 ans et demi portent plainte pour viol. 3 animateurs ont été suspendus.
Et puis, tout ça pour ça, un braquage qui laisse dubitatif les riverains à Roubaix. Des malfaiteurs ont utilisé des explosifs pour attaquer un bureau de poste, mais les sacs de billets étaient vides.
Et puis du soleil d'été à l'hiver. En quelques jours, après la douceur exceptionnelle, c'est un mur froid qui se dresse devant vous à 6h15, 2 minutes, pour comprendre ce basculement météo spectaculaire.
Près de 9 Français sur 10 fréquentent les fast-foods. Burger King vient d'ouvrir son 600e établissement. Le secteur prospère, et ce, alors même que celui de la restauration traditionnelle est en difficulté.
Alors, faut-il taxer, justement, l'ouverture des restaurants franchisés pour freiner cette expansion? Eh bien, c'est l'objet d'un amendement porté par les écologistes. Explication avec Saskia Juinet, Dubinsky, Edgar Becquet, Hortense Gérard et Milan Argelas.
Chaque année, ils entrent un peu plus dans notre quotidien. Pour limiter le développement des fast-foods, ce député écologiste porte un amendement pour les taxer.
Il y a un vrai enjeu sanitaire. Donc l'objectif de cet amendement, c'est justement de taxer ces fast-foods qui s'installent. Pas n'importe lesquels, on ne va pas taxer une boulangerie, évidemment. C'est plutôt les grosses chaînes, les franchisés.
L'amendement prévoit une taxe de 50 000 euros à l'ouverture d'un établissement. Dès l'année suivante, le franchisé devra s'acquitter d'une taxe de 10 000 euros à payer chaque année. Pour un restaurant installé à moins de 300 mètres d'une école, il faudrait payer le double, 100 000 euros à l'ouverture, puis 20 000 chaque année. Les grandes chaînes de restauration se développent partout en France. Cette semaine, pour l'ouverture de son 600e restaurant, Burger King choisissait Grand Quevilly, en Seine-Maritime.
Ça fait plus proche de chez moi.
Mon travail est juste à côté, donc c'est l'occasion de venir de temps en temps.
S'installer dans les petites villes pour se rapprocher des clients, la stratégie est assumée par l'enseigne, mais risquée selon ce spécialiste.
Quand vous allez en milieu rural, vous avez une clientèle qui est mécaniquement plus âgée que les urbains. Or, leur communication s'adresse plutôt à des jeunes. Le deuxième risque que je vois, c'est que McDo l'a fait le premier. Je pense que d'aller à deux en milieu rural, il n'y aura pas assez de marché pour faire vivre correctement les deux.
L'amendement pour taxer les fast-foods devrait être examiné ce week-end par les députés.
Emmanuel, taxe sur les burgers.
C'est-à-dire que si on croit que les jeunes vont dans les fast-foods pour se gaver de junk food, vous passez à côté de l'essentiel qui est que le fast-food aujourd'hui, et notamment près des écoles, c'est le seul lieu où les jeunes peuvent se retrouver pour pas cher.
C'est
un lieu de sociabilisation aujourd'hui. Il n'y a pas que la malbouffe.
Sauf qu'il y a de l'argent à prendre, vous l'aurez compris, Emmanuel.
Oui, bien sûr, mais il faut aussi penser à ça.
Ce matin, dans le Parisien, regardez, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, se dit inquiet du déficit. Notre objectif était de le réduire de 23 à 17 milliards d'euros. Aujourd'hui, selon nos derniers calculs, nous pourrions atteindre 24 milliards, précise-t-il. Il déplore la difficulté à faire voter des économies à l'Assemblée nationale et en appelle à la responsabilité de tous les parlementaires.
Et puis l'image de la nuit, la capitale ukrainienne, Kiev, qui a été ciblée par une vaste attaque de missiles et de drones russes. Selon les autorités locales, plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés. On dénombre des dizaines de blessés. Le maire a appelé les habitants à rejoindre les abris. Nous serons sur place dans le journal de 6h30.
L'inquiétude ce matin, l'inquiétude de plusieurs parents d'élèves face à des soupçons de violence sexuelle dans une école parisienne. La mère d'une fillette de 3 ans et demi a porté plainte pour viol aggravé contre un animateur de la ville.
L'avocate de la famille déplore un manque de transparence de la municipalité dans ce dossier, d'autant qu'il s'ajoute à d'autres affaires. Depuis la rentrée, ce sont 10 animateurs et 3 enseignants qui ont été suspendus dans la capitale pour des faits à caractère sexuel. Bettina de Guglielmo.
Cette petite de seulement 3 ans et demi était scolarisée ici, à l'école maternelle Bulourde, dans le 11e arrondissement de Paris. Ses parents dénoncent des faits de viol aggravés par son jeune âge et l'abus d'autorité de l'animateur périscolaire. Les faits pourraient s'être déroulés en présence d'autres enfants. À l'origine du signalement, une plainte a été déposée.
Au départ, ils ont été informés de certaines choses, notamment par rapport à ces violences sexuelles, que nous qualifions de viol compte tenu des gestes qui sont décrits. Il y a un grand nombre d'enfants qui sont susceptibles d'avoir subi des agressions sexuelles ou des viols.
Au total, dans cette école, depuis la rentrée scolaire, 3 animateurs ont été suspendus, soupçonnés respectivement de faits à caractère sexuel, d'exhibition et de faits d'agression sexuelle. Des enquêtes judiciaires et administratives sont en cours dans un cadre très contraint, imposé par les enquêteurs de police. Les familles ont donc très peu d'informations.
Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir une véritable information par rapport aux faits qui ont été commis. Et les laisser dans l'opacité la plus complète depuis cette époque, c'est un véritable traumatisme.
La mairie du 11e arrondissement a également déposé plainte. Cette affaire s'ajoute à de nombreux autres cas. En tout, dans la capitale, 10 animateurs de la ville sont suspendus pour des accusations de nature sexuelle. De plus, le rectorat de Paris compte depuis septembre 3 enseignants suspendus pour des faits présumés de violence sexuelle. Parmi eux, une femme a été mise à pied le 1er octobre pour avoir fait entrer son compagnon dans l'établissement. Ce dernier a été accusé d'attouchement sur un enfant.
À Roubaix, le braquage spectaculaire d'un bureau de poste et le butin non moins spectaculaire des liasses de billets, non. Des sacs vides.
Et oui, vides, gros loupé pour ces malfaiteurs. De quoi alimenter quelques commentaires ironiques de la part des riverains. Récit de Barbara Durand.
La scène, digne des plus grands films d'action, a été filmée depuis la terrasse de ce café.
Ah ouais, je t'ai dit.
Des hommes, cagoulés, vêtus de gilets jaunes, font exploser un coffre de transfert, là où les convoyeurs déposent des fonds destinés à alimenter des distributeurs. Leur butin, un sac sans billets, rempli de sachets vides, destinés au transport d'argent. Les riverains n'en reviennent toujours pas.
Tout ça pour rien.
Ils ont fait ça pour rien. Et donc ils se sont fait avoir. Ouais. Et ben c'est bien fait pour eux.
Moins de 24 heures après les faits, 6 personnes ont été interpellées hier par la BRI. Ce casse raté semble pourtant avoir été perpétré par des cambrioleurs expérimentés.
Ces hommes-là sont pas n'importe qui puisqu'ils attaquent ce coffre-fort avec un système qui est connu des spécialistes, en tout cas des grands braqueurs, qui s'appelle la charge creuse. C'est un système qui permet, avec de l'explosif posé à l'intérieur et un système de mise à feu électrique, en scotchant le cadre sur la paroi, d'obtenir une découpe parfaite.
Les 6 interpellés ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et destruction de biens par moyen explosif en bande organisée.
Mais c'est bien fait pour eux.
Moi, ils sont bons les riverains.
J'adore ces riverains. 6h07 sur BFM TV, un avant-match poignant hier au Parc des Princes, 10 ans après les attentats du 13 novembre. Les équipes de France et d'Ukraine ont respecté une minute de silence.
Après une superbe Marseillaise terminée a cappella, les supporters avaient déployé cette banderole à nos 132 étoiles du 13 novembre. Et puis à la 13e minute, ils ont allumé la lumière de leur téléphone portable et brandi ces tifos bleu, blanc, rouge.
Et c'est dans ce contexte chargé d'émotions que les Bleus se sont imposés 4-0 et se sont qualifiés pour la Coupe du Monde l'an prochain, la Coupe du Monde 2026, grâce à un doublé notamment de Kylian Mbappé avec cette jolie Panenka. Olise double la mise, puis Mbappé, de nouveau, son 55e but en sélection et qui tiquait à la 88e. Écoutez le capitaine des Bleus.
Beaucoup d'émotions, une communion. L'événement de la journée, c'était pas nous, c'est toutes ces personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, un proche. Et c'est ces personnes-là à qui on pense et toujours avec beaucoup d'émotions et beaucoup de solidarité parce qu'on a touché à notre pays et on est tous solidaires quand on s'attaque à la France.
Voilà, la France valide donc son billet pour le Mondial. Ça, c'est une bonne chose. On connaîtra nos adversaires lors du tirage au sort qui aura lieu le 5 décembre prochain à Washington.
Bon, ce matin, je vous cache pas qu'on est un petit peu inquiet. On a peur que Kevin nous quitte.
Pour une à cause de son col roulé ou pas?
Peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'il y a un petit air breton avec ce col roulé. Non, on a peur qu'il se reconvertisse en influenceur local.
Oula.
Il nous parle tellement de la Bretagne. Vous connaissez sa passion pour sa région. Eh bien, sachez qu'il n'est pas le seul à porter haut les couleurs de sa région.
Ah non, c'est même une tendance sur les réseaux sociaux des influenceurs qui revendiquent fièrement leur territoire et leur accent, à l'image de Frédéric, fier ambassadeur du Lot. Maëva Lamy et Stéphane Forge, je vais le rencontrer.
Au pied de ce château, Frédéric tourne sa nouvelle vidéo. Un rapide montage et voici le résultat.
Au lieu de partir un week-end à Dubaï, viens au château de Saint-Laurent-les-Tours.
Court, humoristique, depuis 3 ans, ses posts cartonnent sur les réseaux sociaux. 10 000 abonnés rien que sur TikTok. Son souhait, mettre en valeur sa région, l'Occitanie.
Le patrimoine, c'est très important. C'est pour faire venir les gens et faire découvrir notre région et ma ville de Saint-Cyrien, où je suis natif.
Et Frédéric n'est pas le seul. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs patrimoine se multiplient.
C'est la cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale en briques du monde.
Ils deviennent même des célébrités locales. C'est d'ailleurs le cas de Frédéric.
Je trouve que c'est un beau projet que tu as fait.
Dans son village, tout le monde le connaît.
C'est très important pour une commune, pour des régions, c'est très important de faire ce qu'il fait. On voit des belles images, on voit comment les communes se développent.
Il espère désormais obtenir plus d'audience pour peut-être nouer des partenariats.
6h10 sur BFM TV, 40 jours. Dans 40 jours, j'ai regardé ce matin, c'est Noël.
J'adore ta passion de Noël.
J'ai pas fait ma liste, mais je suis à deux doigts.
Il a son calendrier de l'Avent.
Évidemment, ça va.
Il a un pré-calendrier de l'Avent. Novembre, il a déjà un calendrier de l'Avent et puis un autre en décembre.
Exactement. Et moi, je suis à deux doigts de faire le sapin. Je sais qu'Evin aussi est précoce.
Et moi, j'ai mon calendrier de l'Avent en saucisson. J'adore le saucisson.
C'est un calendrier. Et c'est la même chose tous les jours, non?
Ah oui, c'est
non, ben non, et saucisson au noix, au poivre, au fromage.
En tout cas, si vous êtes à deux doigts de faire le sapin de Noël, oui. C'est peut-être votre cas. Avant, le sapin, c'était le drame. Vous savez, la boule qui tombe, la boule qui se casse, l'engueulade. Ça, c'était avant. Avant, un objet révolutionnaire, les amis.
Thomas Herman va vous le présenter, cet objet. Il est au Centre international d'art verrier de Maisenthal, où un jeune designer a mis au point une boule de Noël antidérapante. Et comme Thomas... Vous êtes, sans vouloir vous offenser, un petit peu maladroit, on a pu le constater depuis le début de la saison. Si elle survit au passage entre vos mains, on se dit qu'elle peut survivre à tout.
Effectivement, parce qu'en fait, regardez, vous avez des petits traits en fait, sur cette boule, ce qui permet, en fait, quand on l'a en main, eh bien, on la garde bien dans la main et ça ne glisse pas. Bonjour David, bonjour, vous êtes président de la communauté de communes du Pays de Beach. Bonjour.
Bonjour.
Elle a quoi de particulier cette boule justement ?
C'est une boule antidérapante. Effectivement, on a eu un artiste qui a imaginé, et pour lui c'était évidemment le stress de Noël de voir une boule cassée. Donc il a imaginé une boule avec un certain nombre de petites excroissances, ce qui a produit grippe et ce qui va évidemment, contrairement à toutes ses autres copines évidemment, lui permettre d'être bien logé dans le paume de la main.
Pour le prix, à partir de 28 euros, si vous l'achetez par an ici au centre de Maisenthal, regardez ici, on vérifie ce matin toutes les boules pour être sûr qu'elles soient conformes.
Voilà, du travail d'artiste, encore une fois. Une après l'autre passe dans les mains de la spécialiste. C'est plus de 90 000 boules qui sont contrôlées ici dans cet atelier, qui est une manufacture publique, puisque nous produisons avec des collaboratrices et des collaborateurs de l'intercommunalité dont je suis le président. Et puis, c'est aussi pour nous, je crois que c'est essentiel, d'avoir cette approche de transmission des savoirs, intéresser les jeunes, accueillir plus de 2000 écoliers pour faire découvrir ces métiers d'art qui, pour nous, sont essentiels à la sauvegarde de ce patrimoine.
Il a été quand même menacé, supprimé ici, puis remis...
Ici sur une friche, effectivement. C'est une verrie qui a fermé en 1969, 230 licenciés, qui était éteinte. C'était une friche livrée aux ferrailleurs et à la faune sauvage. Et à partir de 83, un musée pour rappeler ce qu'a été Maisenthal, puisque nous avons collaboré ici avec Émile Gallet, mais ça, c'était au 19e siècle. Et puis, au fur et à mesure, on a recréé, évidemment, cette dynamique à partir de 92, et puis la première boule en 99.
Justement, cette boule, on y pense depuis le mois d'août. C'est 90% quand même de l'activité. Mais regardez, vous avez d'autres produits ici. Bon, là, c'est pas antidérapant, par contre, faut faire plus attention. On termine juste sur le fait que c'est un savoir-faire français.
C'est un savoir-faire français, puisque vous êtes ici en Moselle, proximité de l'Alsace, dans les Vosges du Nord. Et puis, c'est tellement français parce que vous êtes aujourd'hui sur un écosystème où nous avons la particularité d'avoir comme voisin direct le groupe Hermès, Saint-Louis, 400 emplois, l'ALIC, quelques centaines d'emplois. Donc, il y a un vrai savoir-faire ici, sur ce territoire.
Merci beaucoup. Bon, on va quand même tout à l'heure vous montrer à 7h40, regardez, vous avez déjà les flammes ici, on est en train de préchauffer donc pour vous montrer le métier de souffleur de verre, pour voir justement comment on la fabrique, cette fameuse boule de Noël 2025, où on la retrouve ici au centre de Maisenthal, ou par exemple sur le mythique marché de Noël de Strasbourg, ce sera pour fin novembre. Mais il y a tellement de succès pour cette boule qui est en vente depuis hier, avec une file d'attente impressionnante déjà hier matin ici pour la retrouver, que ce sera limité à 2 boules par personne forcément, pour qu'il y en ait pour tout le monde quand même.
Oui, bon, en même temps, à 28 euros la boule, 2 dans le sapin, c'est suffisant. Elle est antidérapante, mais elle n'est pas incassable. Moi, quand je vois Thomas avec la boule dans la main...
Moi, j'ai peur pour la boule, quoi, qu'il arrive.
J'ai une petite crainte. On vous retrouvera tout à l'heure à 7h30, Thomas.
Allez, à suivre du soleil d'été à l'hiver. En l'espace de quelques jours, on va se prendre un véritable mur de froid là, dans les prochains jours, ce week-end. 2 minutes pour comprendre ce basculement météo extraordinaire.
Et puis l'écho avec vous, Emmanuel. De moins en moins de Français achètent des articles de maison dans les hyper et les supermarchés.
Ouais, c'était 30% du chiffre d'affaires des hypermarchés en 2010 et 20% seulement maintenant, aujourd'hui. Mais la riposte s'organise.
Vous restez avec nous, on est de retour dans moins de 2 minutes. BFM Première, bienvenue si vous démarrez la journée avec nous. 2 minutes pour comprendre maintenant, pour comprendre le renversement météo spectaculaire qui vous attend dans les prochains jours. Perrine, Kevin, on va vivre un choc thermique littéralement ce week-end.
Ah bah oui, parce que là, c'est vrai que ces derniers jours, on s'est cru au printemps, presque au début de l'été, avec ces vagues, le ciel bleu, la mer, la plage, presque 30 degrés dans le sud-ouest. Mais attention, voici ce qui vous attend ce week-end. Le froid, ah bah non, on n'y est pas encore. Non, c'est plus les surfeurs. Chassez-moi ces surfeurs.
Regardez-moi.
Voilà, c'est ça qui nous attend. La neige, le froid, le blizzard, l'hiver qui va faire une entrée fracassante. Non, j'exagère un petit peu.
Bah, surtout avec les effets spéciaux. Là on s'y croirait. Mais en effet, pas de blizzard, une baisse très sensible des températures, 10 à 15 degrés en moyenne sur la France d'ici jeudi prochain. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut déjà aller chercher la masse d'air chaud qui est remontée sur notre territoire. Elle vient de très très loin, du nord-ouest de l'Afrique. Elle est passée par la péninsule ibérique et donc elle se positionne toujours en ce moment même chez nous au-dessus de la France. Voici l'arrivée maintenant de l'air polaire. Alors, on l'appelle l'air polaire, pourquoi ? Parce que il tient son nom, sa provenance. Hein. On est ici au nord de la Russie. Et vous voyez qu'en effet, cette masse d'air froid, elle descendra d'ici le milieu de semaine prochaine en direction du territoire, d'où cette baisse très sensible des températures. Il est encore trop tôt pour vous proposer une carte précise.
Non, mais alors
précise.
Je vois quand même, parce que choc thermique, on l'a compris, entre 10 et 15 degrés d'écart, mais on voit quand même là, effectivement, de la neige.
Oui, de la neige.
De la neige qui va débarquer. Alors, donc j'étais pas loin avec mon blizzard.
Vous étiez pas loin. Neige, a priori, assurée pour les montagnes. Peut-être pour les plaines, mais ça reste bien trop tôt. Et puis pour les températures, c'est ça qui vous intéresse. Regardez, ça, c'est la moyenne.
Wow.
2 degrés au nord le matin, moyenne. Hein. 7 degrés, pas plus l'après-midi. Et puis dans le sud, franchement, c'est pas franchement mieux. Hein.
Donc retour des premières, enfin des gelées.
Ah oui, dans le nord-est, c'est assuré. Et puis très certainement chez vous, dans la région centre, par exemple, aussi. Ouais.
Et si on se projette un petit peu plus loin, on se dirige vers quoi pour cet hiver ? C'est quoi les tendances ?
Alors, c'est ce qu'on appelle les prévisions saisonnières. Attention, ce sont des statistiques, ce ne sont pas des prévisions comme on a l'habitude de vous en donner quotidiennement ici. Vous voyez que l'on se dirige vers un hiver, un début d'hiver, malheureusement majoritairement beaucoup plus chaud que la normale de saison. C'est la tendance évoquée pour le moment.
Bon, les batailles de boules de neige, c'est pas pour cet hiver, a priori.
En tout cas, dès ce week-end, 10 à 15 degrés de perdu. Je mets le col roulé lundi, moi. C'est décidé.
c'est pris, c'est noté.
L'écho tout de suite.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque pro pour accélérer votre business.
Votre rendez-vous avec Evans, votre partenaire location longue durée. Avancez vers une meilleure mobilité avec Evans.
Et mois après mois, Emmanuel, les grandes surfaces voient baisser les ventes de produits dits non alimentaires.
Effectivement, on est sur des rythmes de baisse aujourd'hui de 5 à 6% sur un an. C'est ce que nous dit le panéliste Circana pour tous ces rayons. Alors, quand on parle de non alimentaire, ce sont les rayons vêtements, les rayons articles de sport, loisirs, jouets, électroménagers, ameublement. Alors, ça n'est pas une tendance récente, mais c'est une tendance qui s'est accélérée depuis le Covid et la vague d'inflation ensuite. Songez qu'en 2010, les ventes de ces rayons, ça représentait 30% du chiffre d'affaires des grandes surfaces. On est tombé aujourd'hui à moins de 20%.
Donc on va surtout dans les grandes surfaces pour les produits alimentaires ?
Oui, parce que c'est encore là que pour remplir le frigo, le choix et les prix restent incomparables. Mais pour le reste, tout a changé. Le e-commerce, par exemple, a capté avec Amazon, VP, Shein, ou encore les sites de marques elles-mêmes, les achats de textiles, de high-tech, d'électroménager, de déco. Aujourd'hui, il y a plus de 20% des ventes de produits non alimentaires qui se font en ligne en France. C'était à peine 7% il y a 10 ans. Et puis, il y a eu le développement des magasins spécialisés, type Decathlon, tous les magasins d'électroménager ou tous les magasins d'informatique. Et puis, il y a le marché de la seconde main qui a pris aussi de l'importance avec des sites comme Vinted ou Le Bon Coin.
Et puis, il faut dire aussi que la grande distribution a un peu tardé à s'adapter à cette nouvelle façon de consommer.
Oui, elle est restée trop longtemps sur le modèle classique de l'hypermarché dans lequel vous venez le samedi en famille faire les courses pour la semaine, vous garez votre voiture sur le parking, etc. Et ben ça, effectivement, c'est fini. La fréquentation des grandes surfaces a chuté de 20% depuis 2015. Alors la riposte s'organise évidemment, hein, réduction de la taille des hypermarchés, transformation des zones textiles ou high-tech en espaces de restauration, de drive ou de produits frais premium, hein, on parle ça tous les rayons sushi, par exemple, corner de marque pour contrer l'image bas de gamme. Bref, l'objectif c'est de donner des raisons aux gens de revenir et pas seulement pour les prix bas.
Donner envie d'avoir envie. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous restez avec nous à la une du journal de 6h30. L'Ukraine. L'Ukraine cible la nuit dernière d'une nouvelle attaque massive de missiles et de drones russes. Ce sont des immeubles résidentiels qui ont été visés. Nous joindrons notre envoyé spécial sur place.
Et puis, signé BFM, vous rendez-vous santé, politique, culture avec ce matin 3 Souchons pour le prix d'un, Steven.
Oui, pour la première fois, Alain Souchon réagit à la réinvention de Full Sentimental par le rappeur star Gims. C'est la première fois qu'il donne son autorisation et il en parle sur BFM TV.
Il est bientôt 6h30, merci de démarrer la journée avec BFM Première. Cette question ce matin à la une, les retraités bénéficient-ils à l'Assemblée d'un traitement de faveur? Les députés ont largement voté contre hier la suppression de leur abattement fiscal. Leur poids électoral n'y est sans doute pas pour rien.
L'Ukraine de nouveau sous le feu des Russes. La nuit dernière, plusieurs quartiers résidentiels de la capitale ont été visés par des missiles et des drones.
Les Bleus en route vers le Mondial, l'équipe de France a décroché son ticket après sa victoire 4-0 face à l'Ukraine hier soir. La rencontre hier, 13 novembre, a aussi été l'occasion d'un vibrant hommage 10 ans après les attentats.
Et puis à 6h40, vos chroniques santé, politique, culture. Ce matin, Alain Souchon, invité exceptionnel de BFM TV, le chanteur qui réagit pour la première fois à la reprise par Maître Gims de son tube, Full Sentimental. Je peux pas me passer de toi.
Une fois de plus, ils échappent donc au coup préfiscal des députés. On parle ce matin des retraités. L'Assemblée a voté hier contre la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient.
Offrant ainsi un nouveau répit à cette catégorie déjà largement protégée, diront certains. Et les retraités ne paieront donc pas plus d'impôts, mais l'abandon de cette mesure a un coût. Plus d'un milliard d'euros pour les caisses de l'État. Célia Jus, Freddy, avec Milan Argelas.
Quand nous leur apprenons la nouvelle hier...
Bah écoutez, tant mieux.
Ces retraités que nous avons rencontrés ne cachent pas leur soulagement.
Déjà, nos retraites ne sont pas épaisses. Et si on lui rabote encore les petits avantages, eh bien, c'est quand même mieux.
Pour les retraités qui ont travaillé toute une vie et qui se sont investis comme moi, on mérite bien d'avoir de l'attention auprès de nous et du respect.
Le gouvernement souhaitait remplacer l'abattement de 10% pour les retraités par un montant forfaitaire de 2000 euros pour chaque foyer. Les députés ont largement rejeté cette réforme hier.
C'est une très belle victoire. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Quand vous êtes salarié, vous payez votre impôt sur le revenu avec 10% d'abattement. Pourquoi, quand vous seriez retraité, vous perdiez davantage d'impôts sur le revenu alors que vous gagniez moins? Ce serait incompréhensible que quand on devient retraité, on gagne moins parce qu'on a la retraite et la retraite est inférieure au salaire et qu'en plus, on paye plus d'impôts.
Guillaume Casbarri en fait partie des seuls à avoir voté contre la suppression de ces articles. Le député EPR fustige la position de ses collègues.
On a d'un côté des députés qui ont peur de tenir un langage de vérité auprès des retraités. Vous avez d'autre part des députés qui, par stratégie électorale, essayent de promettre tout et n'importe quoi en pensant que les retraités vont du coup voter pour eux.
Selon Bercy, cette mesure aurait rapporté 1,2 milliard d'euros dans les caisses de l'État.
Prenons la direction de l'Ukraine à présent. Bonjour Cyril Amourski, vous êtes en direct de Kiev, la capitale qui a été visée cette nuit par une attaque massive qui a fait de nombreux blessés.
Oui, tout à fait. Vous savez, tous les ans, l'Ukraine est frappée par des missiles russes, par des drones russes, notamment pendant la période donc de l'hiver, parce que la Russie mène une campagne contre l'infrastructure énergétique et civile ukrainienne, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine du chauffage. Et donc, ce qu'on a vu là au cours de cette nuit, c'était une attaque massive, comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps, en tout cas dans la capitale de Kiev, avec un usage massif de missiles et de drones. Et c'est jusqu'à à peu près 5 heures du matin. D'ailleurs, il y a encore une dizaine de minutes, il y avait encore une autre alerte aérienne et à Kiev et dans la région de Kiev. Et ce qu'on sait à ce stade, c'est qu'il y a 24 personnes qui ont été blessées. Une personne a été tuée. D'ailleurs, parmi les blessés, il y a une femme qui est enceinte, qui a pu être évacuée, qui a pu être hospitalisée.
Et on parle de 11 lieux différents qui ont pu être touchés cette nuit. Et pour avoir été un témoin direct de ces attaques, je peux vous dire que je connais le pays très bien. J'ai passé ici plus de au cours de ces 3 années et demie, j'étais en Ukraine. Et c'était l'une des frappes les plus massives en termes de missiles qu'on a connues ici à Kiev. C'était particulièrement bruyant et inquiétant.
Cyril Amourski en direct de Kiev ce matin après donc cette nouvelle attaque russe la nuit dernière. On a décidé ce matin de vous emmener en Corse pour démarrer ce journal alors que se déroulera demain une manifestation anti-mafia. Fait rare dans une île où le silence, habituellement, le silence et la peur dominent souvent.
Il y a déjà un rassemblement qui s'est tenu en mars dernier, une première dans l'histoire de la Corse. Cette fois, les appels à descendre dans la rue se multiplient. Citoyens, élus, associations, tous unis pour briser l'omerta et réclamer une île enfin débarrassée de la pression mafieuse. Élise Breteau avec Blandine D'Alena.
Jean-Dominique est membre du syndicat agricole Via Campagnola. Le 17 mars dernier, il a appris le décès de son secrétaire général.
Il a été assassiné en fermant son portail en partant de son exploitation. On n'exclut pas qu'il y ait un rapport avec le système mafieux qui s'est mis en place. Aujourd'hui, on réclame justice.
Pierre Alessandri se battait contre la spéculation immobilière. Pour Jean-Dominique, c'est ce qui lui a coûté la vie. Ce syndicat, ainsi que des collectifs, ont appelé à manifester demain contre la mafia corse.
Il y a désormais une réalité, c'est que la société corse a pris très largement conscience, on va dire, de l'emprise mafieuse, également sur le quotidien des Corses, hein, à travers, on va dire, des actes criminels comme des incendies sur les entreprises.
Pour le procureur d'Ajaccio, c'est un premier pas pour mettre fin à l'omerta qui règne sur l'île.
La plus grosse difficulté que nous rencontrons dans nos enquêtes, c'est bien sûr la loi du silence, qui est souvent accompagné, qui s'accompagne souvent de pressions qui sont exercées sur les témoins, voire sur les victimes. Donc bien évidemment, tout ce qui va dans le sens de l'éveil des consciences nous est particulièrement favorable.
Une manifestation anti-mafia avait déjà été organisée le 8 mars dernier. Elle avait rassemblé 1 millier de personnes à Ajaccio.
Tout sera fait pour empêcher une nouvelle attaque. Les mots hier d'Emmanuel Macron, 10 ans après les attentats du 13 novembre, les plus meurtriers jamais commis en France.
Le chef de l'État qui a mis en garde contre une autre forme de djihadisme intérieur, insidieuse et moins détectable, a dit le président au terme d'une journée de commémoration. Il a inauguré un jardin mémoriel au cœur de Paris en hommage aux 132 victimes de ces attaques. Il y avait aussi dans toutes les mémoires ce souvenir douloureux du 13 novembre, hier soir au Parc des Princes, où les Bleus jouaient face à l'Ukraine. Il y a 10 ans, c'était au Stade de France et c'était face à l'Allemagne.
Ouais, et c'est dans ce contexte émotionnel chargé que l'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde l'an prochain, après une large victoire hier soir face à l'Ukraine, 4-0, notamment grâce à un doublé du capitaine Kylian Mbappé. Retour sur cette soirée sportive et chargée en émotions, Joris Grolbois.
L'unité et l'émotion, le temps d'un instant, 10 ans après l'horreur du 13 novembre.
Le stade entier a respecté la minute du silence pour montrer à quel point ça compte pour les Français. On voulait montrer que c'est la chose qui primait aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de solidarité, parce qu'on a touché à notre pays et on est tous solidaires quand on s'attaque à la France.
Au second plan, un match pourtant très important, une victoire et les Bleus seront officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Après une première période poussive, Kylian Mbappé met d'abord son équipe sur la voie. Michael Olise ensuite, puis Mbappé pour son 400e but en carrière poursuivent le récital. Un 4e but signé Hugo Ekitike qui vient composter le billet pour le Mondial. Une qualification, tout sauf anodine.
Beaucoup de fierté, bien évidemment. Il ne faut pas banaliser, nous on ne banalise pas.
Prochaines étapes pour les Bleus, un dernier match dimanche en Azerbaïdjan et le tirage au sort de la Coupe du Monde, le 5 décembre prochain.
Trouver une place de parking, vous le savez peut-être si vous conduisez, c'est un cauchemar pour de nombreux automobilistes. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de se garer dans les grandes villes.
Eh bien, cette galère pourrait peut-être bientôt appartenir au passé. Fini les tours de quartier interminables comme ça. Je vois que ça parle à tout le monde autour de la table. Ça doit probablement vous parler aussi chez vous. Et grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à l'intelligence artificielle qui s'invite dans vos voitures en vous aidant à repérer les endroits où il reste de la place pour se garer. Le système est actuellement en test à Paris. Regardez ce sujet.
Trouver une place pour se garer à Paris, c'est toujours compliqué, mais il paraît que dans ce secteur du 17e arrondissement, grâce à une appli, c'est beaucoup plus simple. On va tester.
Nous sommes guidés par près de 150 capteurs comme celui-ci, des données disponibles via une application sur votre téléphone pour vous aider dans votre recherche.
En rouge, les zones où il est quasiment impossible de trouver une place. En bleu, apparemment, il y a des places libres.
On va aller voir si c'est le cas.
La promesse, gagner du temps, moins de bouchons, moins de pollution. L'application reconnaît même les places livraison ou handicapées.
Bon, on a dû tourner un petit peu dans le quartier, mais ça y est, petite place, mais on s'est garé. Vous connaissez cette
application? Ah non, pas du tout, je connais pas. C'est une catastrophe de pouvoir se garer à Paris.
Une manière pour la mairie d'arrondissement d'améliorer le quotidien des automobilistes, mais aussi des riverains. En 20 ans, une ville comme Paris a perdu près d'un tiers de ses places de stationnement.
Une voiture sur quatre qui circule cherche à stationner. Autrement dit, 25% de la pollution des véhicules roulants est liée à la recherche de stationnement.
C'est une start-up française qui a développé cette technologie basée sur l'intelligence artificielle, mais qui préserve l'anonymat des données recueillies.
On n'a pas la capacité technique de pouvoir lire une plaque, reconnaître un visage, ou, je sais pas, avoir des spécificités physiques des personnes qui passent devant.
L'entreprise française espère désormais installer sa technologie à Monaco, Cahors ou encore Santa Monica.
Ah puis tiens, on était avec Thomas Hermand tout à l'heure dans le journal de 6h qui nous présentait la fameuse boule antidérapante pour le sapin de Noël. Le ce matin.
Noël. Ouais,
c'est dur à dire. C'est parce que c'est vendredi, ça doit être ça. Et là, ce matin, on vous propose un petit senton très original si vous faites la crèche chez vous.
Ouais, alors pas certain que celui-ci soit homologué par l'Église, à coup sûr, il va épater vos...
Sur un malentendu.
Vos invités. Voici le senton, vous l'aurez peut-être reconnu, le senton Jean-Claude Duss. Hommage, évidemment, au personnage des bronzés, incarné par Michel Blanc, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an. C'est un fabricant d'Aubagne qui a voulu rendre hommage aux comédiens. Reste à lui trouver une place.
On va en acheter un à notre chef d'édition, Julien Navarro. Il aimait bien, a priori, le senton.
Ah, il adore ça. Voilà. Ah bon, on va lui offrir. Voilà, c'est ce fabricant de senton là qui a plutôt réussi le senton Jean-Claude Duss,
ouais,
avec sa combinaison orange.
Ouais, mais combinaison orange, moi je pensais que ça allait être le senton avec le slip et les algues, non?
Vous
savez, c'est pour être à la neige, le senton Noël.
Ouais, c'est bon, Jean-Claude Duss
des bronzés. Voilà, exactement. Voilà. Il y a deux Jean-Claude Duss, on l'aime Michel Blanc, on se souvient évidemment de lui, on mettra le senton dans la crèche.
Fond du sweet.
Allez, tiens, tout de suite, justement, Steven, ça va être à votre tour de parler, vos rendez-vous santé, culture et politique.
Votre rendez-vous avec ACMI, le spécialiste français des infrastructures IBM Power, Mainframe, Stockage et Cloud. Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque.
Et on va parler avec vous, Aurèle, ce matin d'une probable révolution pour une pathologie qui concerne au minimum 10%, une Française sur 10, l'endométriose. Un nouveau test salivaire vient d'être évalué et les résultats sont, paraît-il, très encourageants. Est-ce vraiment le cas?
Alors oui, c'est extrêmement encourageant. On a eu les résultats d'une étude qui a été faite sur environ 1000 patientes et l'objectif en fait de cette étude était d'être capable de dire lorsque vous avez le test positif, eh bien vous avez vraiment la maladie. On est à 95%, on est même à plus de 95% pour être capable de dire ça. Et puis lorsque vous avez le test qui est négatif, être capable de dire bah vous n'avez pas d'endométriose et là on est à plus de 90%. C'est des résultats qui sont extrêmement encourageants parce que c'est une maladie qui est extrêmement difficile à diagnostiquer.
Mais donc c'est une avancée majeure.
C'est exactement ça, c'est une avancée majeure parce qu'il faut bien que vous vous rendiez compte, entre le moment du début des symptômes et le moment du diagnostic, il se passe 7 ans. C'est ce qu'on appelle de l'errance médicale. Et là, eh bien, grâce à ça, on va se permettre de diminuer ce temps-là. Mais pourquoi c'est si difficile à diagnostiquer? C'est important de comprendre. L'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est la maladie de l'endomètre. Endomètre, endo, l'intérieur, mètre, métra, l'utérus. Vous allez avoir donc l'intérieur de l'utérus qui va se développer à d'autres endroits que là où il devrait être. Et le problème, c'est que lorsque c'est des gros morceaux d'utérus, bah là, ça va se voir à l'échographie, ça va se voir à l'IRM. Mais lorsque vous avez des petits morceaux d'utérus qui vont être eux aussi extrêmement douloureux pendant les règles, bah vous n'allez pas les voir. Et le problème, c'est que vous allez avoir une patiente qui a des symptômes et pourtant, à l'imagerie, vous ne voyez rien. Et la seule solution, eh ben, théoriquement, c'est dans ce cas-là de faire une chirurgie. Sauf que là, je vous laisse le faire. Là, l'idée, c'est que vous avez tous un coton-tige, ouais. On le met dans la bouche. Voilà, vous voyez, c'est quand même plus simple qu'une chirurgie.
Mmh. On envoie le prélèvement.
J'ai pas entendu.
Ils sont propres, vos cotons-tiges?
Je répondrai pas à cette question. Et une fois que c'est fait... Non, vous avez peut-être pas eu le bon, mais ce matin, j'avais mal aux oreilles.
Et une fois
que c'est fait, vous envoyez les prélèvements.
Je veux dire qu'il y a une petite couleur jaune sur le cotons-tige.
Et vous aurez le résultat. Reconnaissez D'accord. quand même que c'est extrêmement facile
très
et
efficace.
C'est pas invasif.
Bon, où est-ce qu'on peut faire... Vous disiez, une femme sur 10...
Minimum.
Minimum souffre d'endométriose, véritable handicap. Où est-ce qu'on peut faire ce test?
Alors là, pour le coup, c'est une petite, c'est quand même une petite fierté française, puisqu'en février 2025, grâce au forfait innovation, on a mis ça en place. Pendant 3 ans, on va faire une étude où dans les centres spécialisés, eh bien, vous allez pouvoir réaliser ce test. Parlez-en à votre gynécologue, puisque ce qui est en cours de réflexion, c'est justement une fois que vous avez fait ces imageries et que ces imageries retrouvent pas de morceaux d'endomètre, eh bien de se dire on va quand même essayer d'éliminer ou de confirmer le diagnostic. Donc ce serait en troisième intention. Et dans ce cas-là, c'est en centre spécialisé. Ça coûte 800 euros, mais c'est remboursé par la sécurité sociale. Approchez-vous de votre gynécologue. Il vous rapprochera directement de ces centres spécialisés.
Voilà une bonne nouvelle santé ce matin.
Ça nous fait plaisir.
Merci beaucoup.
Steven, avec vous, on va parler de ce succès surprise de l'automne. Et nous, on est fans. On est fan dans l'équipe. Alors là, c'est l'original, mais Full Sentimental qui a été repris par Maître Gims, chanson qui reprend, qui a dépassé les 5 millions de streams en moins d'un mois. Et pour la première fois, on va écouter Maître Gims dans un instant. Et pour la première fois, Alain Souchon réagit. Et c'est sur BFM.
Oui, il avait gardé le silence. Alors est-ce que c'est parce qu'il est jamais content? Non, c'est plutôt par pudeur, évidemment. Gims, rappeur superstar, on le rappelle, a écoulé plus de 500 000 exemplaires de son album Le Nord se souvient. Et il dit ici, comme ça régulièrement, des inédits le 10 octobre. Stupeur quand l'artiste Bling Bling, quand même, adepte des titres en rafale, dévoile une version très personnelle de Full Sentimental, hymne intemporel sur l'hyperconsommation. Il y a quand même un petit décalage. Et ça donne ça.
Je suis trop sentimental. C'est pour ça que je me fais toujours du mal. Malgré mon train de vie de fou infernal, je peux pas me passer de toi.
On reconnaît Gims, on reconnaît le rythme. On peut pas non plus vraiment parler d'une reprise.
C'est pas véritablement une reprise. On appelle ça en fait une interpolation. C'est un sample éditorial. Ça veut dire quoi? Ici, Gims ne reprend pas les paroles de la chanson, mais juste l'air et ce mot sentimental. Tout le reste donc est inédit. N'empêche, Alain Souchon est bien crédité dans le titre. Il a donc dû donner son autorisation. Pourtant, il avait toujours refusé avec son plus grand tube qui était sorti en 93. On le voit sur l'album C'est déjà ça, ne soit repris ou même utilisé dans une publicité. Mais Gims, il a insisté. Il a même appelé l'épouse d'Alain Souchon. C'est la confidence qu'Alain, qui n'a toujours pas de téléphone portable, nous a faite avec Julie Poncet.
Il est gonflé, ce Maître Gims, parce que c'est quand même ma femme, quoi. On est mariés. et il disait que c'était la chanson que son papa lui avait fait découvrir, sa chanson française préférée.
Je me dis que c'est parce qu'il la trouve bien, qu'il l'aime bien. Donc ça me flatte, ça me fait plaisir. C'est très marrant, les chansons, parce qu'on fait ça dans sa chambre, en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas idiot. On réfléchit, le lendemain on relit, on rajoute une phrase et tout. Puis après ça s'envole et puis tout. Alors c'est ça qui est génial, c'est ce côté pesant dans la chambre et tout. Puis après, ça vole, ça va partout et c'est sympa.
32 ans donc après sa création, Full Sentimental arrive dans les oreilles d'une nouvelle génération. Et ça, Alain Souchon l'a bien compris, évidemment. Il revisite son titre indémodable dans son nouvel album Studio Saint-Germain. On en parle dans une heure.
On va en parler dans une heure, effectivement, puisque tout au long de la matinée, vous allez nous dévoiler comme ça les confidences d'Alain Souchon autour de ce titre. Et je le redis, on est complètement fan. Même Aurel Gage valide. C'est comment?
Totalement.
Vous avez dit quoi tout à l'heure?
Ah, c'est très stylé. Moi,
c'est très stylé. Voilà.
Moi, je retiens le mot d'interpolation.
Exactement. On pique un petit bout d'une chanson juste.
On apprend des mots le matin avec nous en BFM Première. Allez, on continue avec la politique. Et on accueille autour de la table Aurore Malval ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Aurore, on est à une semaine du congrès des maires de France. Et on va parler ce matin de la grande détresse des petits élus, qu'on appelle les petits élus.
Ce qu'on appelle les petits élus. Alors vous savez, les maires, on les aime bien. Et justement, quand on est un grand élu, comprenez au moins un député, eh bien on aime bien en parler, se pencher sur leur berceau, au moins une fois par an, quand c'est leur congrès. On les cajole un peu, ça coûte pas grand-chose, on fait un peu de câlinothérapie. Vous, les experts de votre territoire, vous, le rempart de la démocratie, c'est vrai qu'ils sont plutôt mieux aimés que le reste de la classe politique, donc on en profite. Alors on fait mine qu'on va les écouter quand ils nous racontent que leurs administrés n'en peuvent plus et que eux aussi sont en train de craquer. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Bah, pas grand-chose. Allez, à l'année prochaine. Résultat, sur ce mandat, et c'est exceptionnel, l'Association des maires de France a comptabilisé 40 démissions de maires par mois. C'est à peu près un maire sur 20 au total par mois. C'est énorme. Et ça, justement, ils expliquent que c'est lié globalement à 3 grandes causes. D'abord, l'impossibilité d'agir. Ils ont moins de pouvoir, moins de moyens. Les dotations aux communes sont souvent dans la variable d'ajustement du budget de la nation et pourtant on leur en demande toujours plus. D'abord du côté des habitants, mais aussi de l'État qui leur demande de prendre en charge des choses finalement qu'avant ils n'avaient pas et qu'ils n'avaient pas sous leur responsabilité, des choses aussi variées que l'entretien des digues, la petite enfance ou même la sécurité. Ensuite, bien sûr, il y a la pression administrative, cette impression d'être constamment contrôlé, de voir les normes s'empiler. Et puis enfin, il y a la violence de plus en plus fréquente. En Alsace, un maire a été roué de coups pour une histoire de bornage de terrain. Donc on voit bien les motifs, c'est totalement délirant. D'ailleurs, dans ce département, il y a même des formations qui sont dispensées par le GIGN pour apprendre aux élus à dialoguer avec leurs administrés. Alors, ça leur sera sûrement utile quand il faudra leur annoncer qu'il y aura des coupes franches dans les subventions aux associations. Ça fait pas plaisir. Et forcément, tout ça, eh bien, ça ne pousse pas à s'engager. Et on fait à nouveau face à une crise des vocations pour trouver des candidats pour les municipales de mars prochain. Espérons qu'on n'aura pas besoin du GIGN pour les convaincre.
Merci beaucoup. 40 démissions par mois sur ce mandat. 40 démissions de maire, c'est absolument énorme. À la une du journal.
À la une du journal, ouais, l'offensive contre Chine qui s'accélère. Les députés examinent aujourd'hui une taxe de 2 euros par article sur les petits colis non originaires de l'Union européenne. Cela freinera-t-il les achats?
Et puis la question du jour à 7h10, alors que la Chine et la Russie ont présenté cette semaine leur nouveau robot humanoïde, ménage, aide à domicile, vont-ils bouleverser notre quotidien?
La bataille contre Chine et les autres géants chinois de l'e-commerce s'accélère. Sur le plan européen, les États membres ont approuvé hier la fin de l'exonération de droits de douane sur les petits colis importés, et ce, dès le premier trimestre 2026.
Et chez nous, en France, les députés examinent aujourd'hui la création d'une taxe de 2 euros par article sur ces envois. Cette taxe va-t-elle freiner les achats des consommateurs? Explication Benoît Ruiz, Lucas David, Edgar Becquet avec Antoine Fernandez.
Il en arrive chaque jour en France plus de 2 millions. Les petits colis contenant des produits au montant dérisoire et achetés chez les géants du e-commerce asiatique. Pour mettre un coup de frein à l'arrivée de ces colis, l'Assemblée nationale doit statuer aujourd'hui sur la création d'une nouvelle taxe. 2 euros supplémentaires par article commandé, pas assez dissuasif selon vous.
2 euros, c'est pas ça qui arrêteront les personnes d'y aller, quoi.
2 euros, c'est pas suffisant pour dissuader les gens de commander sur ce genre de site.
Et si la France souhaite faire la guerre aux petits colis, il en est de même pour toute l'Union européenne. Hier, les États membres ont approuvé la suppression de l'exonération des droits de douane sur les colis. L'Europe veut aller encore plus loin et imposer une taxe de 2 euros supplémentaires par envoi. Au-delà des consommateurs, ces mesures vont changer les habitudes des plateformes, selon cette spécialiste.
Leur marché, c'est de faire beaucoup, beaucoup de petits colis. Donc c'est un peu l'univers du tout à moins de 2 euros. C'est tout un business model qui, eh bien, va être mis à mal. Et bien évidemment qu'à un moment donné, la répercussion, eh bien, elle va s'effectuer sur le prix final que le consommateur va payer.
En 2024, plus de 4 milliards de petits colis sont entrés en Europe. Toutes ces taxes, au niveau français comme européen, pourraient entrer en vigueur dès 2026.
Allez, dans l'actualité ce matin, il y a également cette inquiétude du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Chez nos confrères du Parisien, il se dit inquiet du déficit. Notre objectif était de le réduire de 23 à 17 milliards d'euros. Aujourd'hui, selon nos derniers calculs, nous pourrions atteindre 24 milliards, précise-t-il. Il déplore la difficulté à faire voter des économies à l'Assemblée nationale et en appelle à la responsabilité de tous les parlementaires.
L'image de la nuit, l'Ukraine, la capitale ukrainienne Kiev, ciblée par une vaste attaque de missiles, de drones russes. Selon les autorités, il y a plusieurs immeubles résidentiels qui ont été touchés. Le dernier bilan fait état de 3 morts, 26 blessés. Le maire Vitali Klitschko a appelé les habitants à rejoindre les abris. Nous serons sur place dans le journal de 7h30.
À la une également ce matin, en vous le disant en titre, c'est Tesla en feu. 24 véhicules de la marque d'Elon Musk ont été détruits dans une concession. Ça se passe en périphérie de Marseille.
Bonjour Alexis Pluyette, on vous retrouve sur place. Alors heureusement, il n'y a pas eu de victime, mais un trou découpé dans le grillage laisse penser clairement à une action criminelle.
Oui, absolument. La piste criminelle privilégiée, il y a plusieurs éléments troublants. Vous le disiez, un trou dans le grillage et puis des départs de feu distincts. C'est ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête confiée à la division de criminalité territoriale. Alors, vous le disiez, hein, il n'y a pas eu de victimes, heureusement, mais de gros dégâts matériels. Vous voyez ces 24 véhicules Tesla brûlés. Hein, leur épave est toujours sur le parking de cette concession. Le feu qui a pris la nuit dernière, donc la nuit de mercredi à jeudi, vers 3h du matin, et les 50 pompiers ont permis de sauver, entre guillemets, les autres véhicules du parking, 50 véhicules, et puis le bâtiment Tesla que vous apercevez sur ces images d'Anne Boisy. Il y avait un gros panache de fumée, hein, si l'on s'en réfère aux images témoins qui ont été filmées. Et puis ce matin, donc un ruban de balisage de sécurité autour de ces voitures. Alors, on a croisé tout à l'heure une responsable de la marque Tesla. Il y avait un petit peu d'embarras parce que pour le moment, évidemment, on ne connaît pas les raisons de cet incendie, ni les auteurs. Il y a une enquête interne qui a été diligentée par la marque Tesla. Ce qu'il faut rappeler, ça a été une année noire pour Tesla. Il y a eu plusieurs incendies volontaires en France après des propos polémiques du patron de la marque, Elon Musk. Mais dans ce cas précis, il faut rester prudent. Rien ne permet de dire à ce stade que la marque est ciblée directement. Ça peut être un différent privé. Pour le moment, l'enquête ne fait que commencer.
Merci Alexis Pluyette avec Anne Boisise. Et puis toujours à Marseille, la mort d'un jeune homme de 22 ans qui a été tué par balle en plein jour. Hier, on est dans le 4e arrondissement de la ville. La victime est le frère d'une figure politique locale engagée contre le trafic de stupéfiants. Il s'agit d'Amine Kessassi qui lutte contre le narcotrafic. Son frère a été donc abattu hier après-midi. Il était au volant. Un motard s'est mis à sa portée et lui a tiré dessus.
Plusieurs études de 9 mm effectivement ont été retrouvées sur la scène de crime. Il y a 5 ans déjà, des trafiquants ont tué un autre frère d'Amine Kessassi. Il est 7h05. On voulait vous emmener aussi ce matin avec Perrine dans la Meuse à Verdun, où la polémique enfle autour d'une messe en hommage au maréchal Pétain.
Qui était prévue normalement demain, mais le maire a interdit la cérémonie. Il demande l'intervention du ministre de l'Intérieur, mais l'association veut maintenir sa messe. Elle a déposé un recours. Le tribunal de Nancy doit trancher précisément ce matin à 11h. De quoi raviver un sujet toujours aussi sensible dans cette ville hautement symbolique, Isor de la Gorce.
C'est dans cette église de Verdun qu'une association souhaite célébrer demain une messe en hommage au maréchal Pétain et à ses soldats. Sur place, l'initiative scandalise ses habitants.
Je pense qu'il vaut mieux éviter ça. C'est un petit peu oublié tous ceux qui ont été déportés, tous ceux qui ont été fusillés, les maquisards, tout ça.
On ne réhabilite pas quelqu'un comme ça, surtout quand même que c'est grave, hein, la guerre et tout.
Le maire de Verdun a adressé hier un courrier au ministre de l'Intérieur. Il demande à Laurent Mugnez d'interdire cette messe.
Historiquement, politiquement, on ne peut pas honorer la mémoire de celui qui a déshonoré la France républicaine.
Mais l'association assume, son président défend coûte que coûte le projet.
C'est une sorte de procès d'intention, quoi. Et nous avons été quand même interloqués de voir que cette simple messe pacifique, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 11 novembre sur le maréchal lié à la Première Guerre mondiale, fasse l'objet d'un intérêt.
L'association a attaqué en justice l'arrêté municipal interdisant la messe. Le tribunal administratif de Nancy rendra dans la journée sa décision.
À Roubaix, le braquage spectaculaire d'un bureau de poste avec un butin non moins spectaculaire. Vous allez me dire des liasses de billets. Non.
Et non.
Non, non, des sacs vides.
Eh oui, un gros loupé. Alors, c'est ce qu'on appelle un sacré loupé pour ces malfaiteurs. De quoi alimenter d'ailleurs, vous allez l'entendre, les commentaires ironiques des riverains, récit de Barbara Durand.
La scène, digne des plus grands films d'action, a été filmée depuis la terrasse de ce café.
Bah ouais, je te le dis.
Des hommes, cagoulés, vêtus de gilets jaunes, font exploser un coffre de transfert, là où les convoyeurs déposent des fonds destinés à alimenter des distributeurs. Leur butin, un sac sans billets, rempli de sachets vides, destinés au transport d'argent. Les riverains n'en reviennent toujours pas.
Tout ça pour rien.
Ils ont fait ça pour rien. Donc ils se sont fait avoir.
Bah ouais.
Et ben c'est bien fait pour eux.
Moins de 24 heures après les faits, 6 personnes ont été interpellées hier par la BRI. Ce casse raté semble pourtant avoir été perpétré par des cambrioleurs expérimentés.
Ces hommes-là sont pas n'importe qui, puisqu'ils attaquent ce coffre-fort avec un système qui est connu des spécialistes, en tout cas des grands braqueurs qui s'appelle la charge creuse. C'est un système qui permet, avec de l'explosif posé à l'intérieur et un système de mise à feu électrique, en scotchant le cadre sur la paroi, d'obtenir une découpe parfaite.
Les 6 interpellés ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et destruction de biens par moyen explosif en bande organisée.
Vous êtes nombreux chaque semaine à suivre sur BFM TV le forum BFM animé par Maxime Switek en pleine crise sociale, économique et politique. Hier soir, les Français ont livré leur témoignage sur le travail, extrait compilé par Antoine Fernandez.
Travail, salaire, la France craque. Hier soir sur notre antenne, parole aux Français qui n'en peuvent plus. Trop de taxes, trop d'impôts, une mauvaise valorisation du travail. Employés, indépendants ou chefs d'entreprise, votre constat est sans appel.
Aujourd'hui, nous avons dû depuis 25 ans travailler plus, gagner plus.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est totalement inexact. On travaille plus, on gagne moins.
Quand je vois comment on nous massacre, nous qui générons la richesse du pays, je me dis mais honte à eux.
Des Français parfois totalement découragés, à l'image d'Antoine. Il a été propriétaire d'un restaurant bureau de tabac durant 13 ans. Il y a 4 mois, accablé par les taxes, il a décidé de jeter l'éponge.
Trop d'heures, trop de travail, trop de charges, trop de contrôles fiscaux, trop de contrôles d'URSSAF. On paye. On a vendu. Du jour au lendemain, on a décidé de vendre.
Une appétence pour le travail perdu, que l'on retrouve même chez ceux qui n'ont pas encore commencé leur carrière. Noah est étudiant, il est déjà découragé.
Aujourd'hui, on a totalement décrédibilisé le travail, avec toutes les charges, toutes les cotisations sociales qu'on paye. Qu'on soit alternant, qu'on soit en CDI ou en CDD, ça revient à la même chose.
Pour vous, ça vaut plus le coup de bosser ?
Non.
Vous avez quel âge, pardon ?
J'ai 21 ans.
C'est fou de se dire ça.
Un panel de Français qui reflète l'état d'esprit du pays. Lors de notre dernier sondage Elab pour BFM TV, plus de 7 Français sur 10 disaient avoir le sentiment que les impôts et les taxes avaient augmenté depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017.
Un avant-match poignant hier au Parc des Princes, 10 ans après les attentats du 13 novembre. Les équipes de France et d'Ukraine ont respecté une minute de silence.
Oui, après une superbe Marseillaise terminée a cappella, les supporters avaient déployé cette banderole à nos 132 étoiles du 13 novembre. Et puis à la 13e minute, ils ont allumé la lumière de leur téléphone portable et brandi ces tifos bleu, blanc, rouge.
Et c'est dans ce contexte chargé d'émotions que les Bleus se sont imposés 4-0, qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 grâce à cette super Panenka de Kylian Mbappé qui a inscrit à un doublé. Olise a doublé la mise. Et puis donc Mbappé de nouveau, voilà son 55e but en sélection. Et Kitike à la 88e. Écoutez le capitaine des Bleus.
Beaucoup d'émotions, une communion. L'événement de la journée, c'était pas nous, c'est toutes ces personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, un proche. Et c'est ces personnes-là à qui on pense et toujours avec beaucoup d'émotions et beaucoup de solidarité parce qu'on a touché à notre pays et on est tous solidaires quand on s'attaque à la France.
Voilà, Kylian Mbappé et ses coéquipiers qui sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 et qui connaîtront leur adversaire quand ? Le 5 décembre. Lors du tirage au sort.
Vous connaissez sa passion pour la Bretagne. Il nous en parle chaque matin, Kevin, évidemment. Là, il y a deux Bretons aujourd'hui.
Oui, il y en a deux. Hein.
Je trouve que le lobby pour la Bretagne est trop présent.
Et ils ont tendance, les deux, à inonder les réseaux sociaux sur leur région préférée.
France, que voulez-vous.
S'ils devenaient influenceurs, parce que... Ah bah ouais. C'est une idée, Kevin. C'est une idée. Parce que de plus en plus d'influenceurs font la promotion, justement, comme ça, de leur région.
Oui, c'est une tendance sur les réseaux sociaux, effectivement, porter fièrement les couleurs de son territoire, revendiquer son accent aussi, à l'image de Frédéric, qui, lui, n'est pas ambassadeur de Bretagne, mais du Lot. Regardez, Maëva Lamy et Stéphanie Forgeois.
Et jeune.
Au pied de ce château, Frédéric tourne sa nouvelle vidéo. Un rapide montage, et voici le résultat.
Au lieu de partir un week-end à Dubaï, viens au château de Saint-Laurent-les-Tours.
Court, humoristique, depuis 3 ans, ses posts cartonnent sur les réseaux sociaux. 10 000 abonnés rien que sur TikTok. Son souhait, mettre en valeur sa région, l'Occitanie.
Le patrimoine, c'est très important. C'est pour faire venir les gens et faire découvrir notre région et ma ville de Saint-Cyrénat, où je suis natif.
Et Frédéric n'est pas le seul. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs patrimoine se multiplient.
C'est la cathédrale Sainte-Cécile, la plus
plus grande cathédrale en briques du monde.
Ils deviennent même des célébrités locales. C'est d'ailleurs le cas de Frédéric.
Je trouve que c'est un beau projet que tu as fait.
Dans son village, tout le monde le connaît.
C'est très important pour une commune, pour des régions, c'est très important de faire ce qu'il fait. On voit des belles images, on voit comment les communes se développent.
Il espère désormais obtenir plus d'audience pour peut-être nouer des partenariats.
On a essayé, on voulait les faire parler breton, les deux. Non, mais vous parlez breton.
Un temps McBeyond.
Kenavo.
Un
tout petit peu, ça veut dire.
Un tout petit peu.
Kenavo, c'est facile.
Kenavo, c'est à bientôt, au revoir.
Au revoir, Arvéchal, la prochaine.
Bon, Kenavo, non, pas Kenavo tout de suite. Restez avec nous à suivre. La question du jour, la Chine et la Russie ont dévoilé cette semaine leur nouveau robot humanoïde. La révolution des robots est en marche. Vont-ils bouleverser notre quotidien ? C'est ce que nous dira Raphaël Grabli.
Et puis la chronique éco, alors que le taux de chômage a encore augmenté au troisième trimestre, Emmanuel Le Chip nous dira quel est le profil des demandeurs d'emploi. Avec cette étude, vous verrez qu'il casse un peu les idées reçues sur le sujet. Vous restez avec nous, on est de retour dans moins de deux minutes.
Merci de passer cette matinée avec nous. La question du jour, comment les robots vont changer notre quotidien? On a assisté cette semaine à la présentation de deux robots à forme humanoïde. Un venu de Chine, vous allez voir, regardez, qui est quand même troublant de réalisme. Alors, pour la petite anecdote, ils ont dû faire une autre présentation pour prouver que c'était bien un robot, qu'il n'y avait aucun humain à l'intérieur. Et ils ont dû découper le tissu.
Ça change R2-D2 quand même.
Ça change R2-D2. Mais alors attendez, regardez, parce qu'on en a un autre à vous montrer. Lui, il vient de Russie. On va le voir, il est baptisé Idole. Donc il est un peu moins fluide sur la démarche, avec la musique de Rocky, et bam.
On dirait sans voilà. Qu'il est. Ouais. On dirait sans qu'il est saoul.
Il est russe. Un petit peu de vodka.
Une vodka fondatée, diront les mauvaises langues.
Il a quelques progrès encore en fait.
Voilà. Bon, Raphaël Grabli, le robot domestique, c'est la prochaine révolution. Avec des modèles qui sont déjà en vente.
Oui, en fait, le robot russe n'est pas tout à fait au point encore.
Oui, on a mais, un boîtier, oui.
Mais le premier, le robot chinois qui est créé par l'entreprise automobile XPeng. Donc XPeng, c'est une boîte énorme, c'est vraiment le pendant chinois de Tesla. Celui-là, il va être commercialisé en 2026, alors plutôt pour des usages professionnels. Voilà, c'est celui qu'on voit à l'écran. Donc par exemple, pour l'accueil, dans des musées, dans des aéroports ou encore pour de l'industrie. Mais effectivement, il y a eu des vrais débats parce qu'on a enchaîné des démonstrations ces dernières années de robots parce que tout le monde veut être le premier là-dessus où en fait, c'était un humain à l'intérieur ou alors il y avait des petites triches. C'est-à-dire que le robot était télécommandé et on va en reparler dans quelques minutes. Et donc là, effectivement, le robot de XPeng, il est entre guillemets véridique et opérationnel mais pour des tâches assez simples, c'est-à-dire des tâches industrielles ou d'accueil. Et puis après, il y a un autre robot qui a été présenté cette fois il y a 15 jours, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui a beaucoup, beaucoup fait parler, c'est le robot Neo. Ça, c'est une boîte américaine, voilà, c'est celui qu'on voit à l'écran. Et alors, ce robot, il a une spécificité encore plus importante, c'est que non seulement il a une date de sortie, 2026, mais il a un prix. Alors, c'est soit 20 000 dollars, soit maintenant, c'est comme les voitures, on fait du leasing, c'est 500 dollars par mois. Et alors là, on voit clairement que c'est un robot qui est censé entrer dans notre quotidien, assisté par une intelligence artificielle. Alors, avec un côté peut-être un peu angoissant, parce que les deux yeux qu'on voit à l'écran, c'est quand même deux caméras.
Voilà. Mais il fait quoi, concrètement?
Alors, il y a ce qui est officiel, et puis il y a ce qui est officiel. Officiellement, il peut tout faire.
Porter
une aide
cours,
à domicile. Enfin... On le voit avec des personnes âgées, parce qu'on imagine que le marché est monumental. On le voit plier du linge. Alors après, il y a une journaliste américaine du Wall Street Journal qui l'a testé. C'est compliqué, c'est encore laborieux, c'est 1 minute 30 pour aller chercher une bouteille d'eau dans le frigo.
Et il peut faire la cuisine, par exemple?
Alors, non.
Vous n'avez pas cuisiné.
Clairement, on le déconseille. Et d'ailleurs, il le présente même pas en train de faire vraiment à la cuisine, mais on le voit en train de plier du linge. Par contre, il y a un élément qui est très important, et c'est là où on arrive encore sur les soupçons, entre guillemets, de triche. C'est que dans pas mal de cas, il n'est pas tout à fait autonome, parce que ce qui manque, déjà, d'un point de vue mécanique, l'agilité des doigts, c'est encore compliqué, mais surtout, c'est pas que les jambes et les bras, c'est la tête. Et l'intelligence artificielle n'est pas encore forcément au point. Résultat pour cette boîte, ce qui se passe, c'est que vous avez des agents à distance qui prennent ses yeux et qui le téléguident avec un casque de réalité virtuelle.
On donc la question pas dans l'autonomie totale encore.
Voilà.
Enfin, pour 500 dollars par mois, en tout cas, vous pouvez louer ça à domicile. C'est peut-être une solution. Vous parliez des personnes âgées.
Oui, mais est-ce que vous avez envie qu'il y ait des milliers de gens qui soient à distance?
Non, pas forcément.
Incroyable, ça.
Ah,
ouais.
Pas forcément.
Non, c'est flippant.
En tout cas, les progrès sont spectaculaires. Merci beaucoup, Raphaël Grabli. L'écho tout de suite. On va parler des retraités.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Votre rendez-vous avec Revolut Business.
la Banque Pro pour accélérer votre business.
Votre rendez-vous avec Evans, votre partenaire location longue durée. Avancez vers une meilleure mobilité avec Evans.
On va pas parler des retraités, pardon, Emmanuel. On en parle tellement en ce moment des retraités que ma langue a fourché. On va parler de cette baisse.
Tout à l'heure, les retraités, dans notre débat.
De cette baisse du chômage. La baisse du chômage est-elle terminée en France ?
Rappelez-vous, c'était l'objectif ultime d'Emmanuel Macron, ramener le taux de chômage à 5% de la population active. Alors, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu en France depuis les années 70, exactement au même moment d'ailleurs que l'équilibre des finances publiques. C'est-à-dire les deux se sont dégradés en même temps. L'objectif paraissait encore atteignable fin 2022. On était tombé à presque 7% de taux de chômage. On était à 10,5%, rappelez-vous, en 2015. Mais depuis, ça coince. Ça coince puisque 7,7% des Français employés aujourd'hui sont sans emploi, pardon, au troisième trimestre. C'est le niveau le plus élevé depuis 4 ans et il n'y a que le chômage des jeunes aujourd'hui qui continue encore un peu à diminuer.
Et comment on explique cette augmentation ?
Alors, il y a tout un tas d'explications. Il y a d'abord des explications statistiques, comme l'intégration des bénéficiaires du RSA dans le comptage des chômeurs. Il y a des explications conjoncturelles, évidemment, le ralentissement de l'activité et puis l'incertitude politique qui freine les embauches. Dernière enquête sortie sur le sujet hier, les PME interrogées par Grant Thornton et Challenge, 2% seulement des entreprises ont l'intention de recruter dans les mois qui viennent. Et puis il y a des explications enfin plus structurelles. La montée en puissance encore peu visible, mais bien réelle, de l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'il y a déjà 46% des dirigeants d'entreprises qui disent qu'ils ont supprimé des emplois à cause de l'intelligence artificielle. Et puis la fluidification du marché du travail qui joue, mettre un terme à un contrat de travail est plus facile avec la rupture conventionnelle. Rappelons que c'est le premier motif de séparation aujourd'hui entre un salarié et son entreprise, 18% des cas.
À quoi faut-il s'attendre alors maintenant ?
Difficile de croire que la baisse va reprendre d'ici la présidentielle. Beaucoup a déjà été fait sur le durcissement de l'assurance chômage. Il faudrait accroître le bénéfice du retour à l'emploi, mais c'est pas dans les tuyaux. Les conditions de la rupture conventionnelle vont même être durcies. Il faudrait augmenter les salaires, mais le niveau de cotisation sociale et des impôts payés par les entreprises l'interdit. Alors évidemment, une baisse des prélèvements serait salutaire, mais là encore, ça n'est pas la tendance. Et puis surtout, la productivité remonte après plusieurs années de baisse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrive à produire plus avec moins d'emplois. Alors c'est bon pour la compétitivité, mais c'est pas bon pour l'emploi. La seule tendance qui est positive, en fait, c'est le vieillissement démographique qui fait qu'il y a moins de gens qui vont rentrer sur le marché du travail. Donc on verra la politique qui nous sera proposée après, finalement, l'élection présidentielle de 2027.
Allez, vous restez avec nous sur BFM TV à la une du journal de 7h30. On va revenir sur ce nouveau cas de violence sexuelle dans une maternelle à Paris. Trois animateurs d'une même école ont été suspendus, notamment pour des suspicions de viol.
Et puis, signé BFM, 7h40, on s'intéresse à l'Ukraine, visée cette nuit par de nouvelles frappes, mais aussi secouée par un scandale massif de corruption. Merci de passer ce début de journée avec BFM Première. La météo, alors je pensais que vous alliez nous montrer la carte de France, mais je la vois pas, la France, là, Kevin.
Oui, c'est compliqué de se repérer. Heureusement que l'on a la Corse, voilà, pour localiser le continent, nos côtes méditerranéennes qui sont également concernées par les nuages. Il faut dire que les pluies seront intenses aujourd'hui vers les Cévennes, matin comme après-midi. Attention au vent fort. Alors le pire est passé, le plus gros est passé, mais on a eu quand même des rafales à près de 130 km par heure à Bagnères-de-Luchon, 620 mètres d'altitude pour les Pyrénées. Sinon, voilà, un ciel de traîne avec de nombreux nuages, du vent et des températures extrêmement douces. On n'est pas loin du record, il faudra attendre encore, mais pas loin du record dans certaines localités, de nouveau du sud-ouest, il fera 20 degrés chez vous cet après-midi à Orléans.
C'était votre météo avec Méribel.
C'était la météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, achetez et vendez votre véhicule d'occasion près de chez vous.
C'était la météo avec Generali. Préparez votre futur, ici et maintenant. Generali, assurez vos vies.
Il est 7h30, merci de démarrer la journée avec BFM Première à la une ce matin. Ce nouveau scandale de violence sexuelle qui touche une maternelle à Paris. Les parents d'une fillette de 3 ans portent plainte pour viol. Trois animateurs ont été suspendus.
L'Ukraine, de nouveau sous le feu des Russes la nuit dernière. Au moins 3 morts et une vingtaine de blessés. Nous serons sur place dans un instant. Le pays qui est également touché par un vaste scandale de corruption. Nous y reviendrons à 7h40 avec François Clémenceau.
Cette question également à la une ce matin. Les retraités bénéficient-ils d'un traitement de faveur à l'Assemblée? Les députés ont largement voté contre hier la suppression de leur abattement fiscal. Leur poids électoral n'y est sans doute pas pour rien.
Et puis à 7h40, la culture. La famille Souchon, père et fils, invité exceptionnel de BFM TV à l'occasion de la sortie ce vendredi d'un album acoustique de leur tournée événement.
Je chante un plaisir, marchant dans la rue, le cœur démoli par une.
Mais démarrons par cette inquiétude ce matin, inquiétude de plusieurs parents d'élèves face à des soupçons de violence sexuelle dans une école parisienne. La mère d'une fillette de 3 ans et demi a porté plainte pour viol aggravé contre un animateur de la ville.
L'avocat de la famille déplore un manque de transparence dans ce dossier de la part de la municipalité, d'autant que ça s'ajoute à d'autres affaires. Depuis la rentrée, ce sont 10 animateurs et 3 enseignants qui ont été suspendus dans la capitale pour des faits à caractère sexuel. Bettina de Guglielmo.
Cette petite de seulement 3 ans et demi était scolarisée ici, à l'école maternelle Bulourde, dans le 11e arrondissement de Paris. Ses parents dénoncent des faits de viol aggravés par son jeune âge et l'abus d'autorité de l'animateur périscolaire. Les faits pourraient s'être déroulés en présence d'autres enfants. À l'origine du signalement, une plainte a été déposée.
Au départ, ils ont été informés de certaines choses, notamment par rapport à ces violences sexuelles, que nous qualifions de viol compte tenu des gestes qui sont décrits. Il y a un grand nombre d'enfants qui sont susceptibles d'avoir subi des agressions sexuelles ou des viols.
Au total, dans cette école, depuis la rentrée scolaire, 3 animateurs ont été suspendus, soupçonnés respectivement de faits à caractère sexuel, d'exhibition et de faits d'agression sexuelle. Des enquêtes judiciaires et administratives sont en cours dans un cadre très contraint, imposé par les enquêteurs de police. Les familles ont donc très peu d'informations.
Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir une véritable information par rapport aux faits qui ont été commis. Et les laisser dans l'opacité la plus complète depuis cette époque, c'est un véritable traumatisme.
La mairie du 11e arrondissement a également déposé plainte. Cette affaire s'ajoute à de nombreux autres cas. En tout, dans la capitale, 10 animateurs de la ville sont suspendus pour des accusations de nature sexuelle. De plus, le rectorat de Paris compte depuis septembre 3 enseignants suspendus pour des faits présumés de violence sexuelle. Parmi eux, une femme a été mise à pied le 1er octobre pour avoir fait entrer son compagnon dans l'établissement. Ce dernier a été accusé d'attouchement sur un enfant.
On prend la direction de l'Ukraine à présent. Bonjour Cyril Amonski, vous êtes en direct de Kiev, la capitale, on le disait en titre, qui a été visée cette nuit par une attaque massive de drones et de missiles. Elle a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés.
Oui, tout à fait. Le bilan qu'on a à ce stade, c'est 3 morts et 26 blessés. Vous l'avez mentionné, il y a eu donc une attaque massive et de missiles et de drones sur Kiev et sur l'Ukraine en général. Pour parler de Kiev, c'était probablement l'une des attaques les plus importantes de cette année avec des missiles. Ça a duré pendant 1h30 avec 3 vagues différentes de missiles. Et là, je suis sur l'un des lieux justement dans la ville de Kiev. Vous voyez derrière moi, il y a des fenêtres qui sont éclatées. Il y a notamment un étage juste au-dessus également qui a été impacté directement par un missile. Et autour de moi, on voit partout des civils qui sont venus chercher de l'aide, chercher des vivres. Et on le rappelle, la Russie vise essentiellement, en tout cas c'est ce qu'elle prétend, et on le voit aussi dans les faits ici avec les coupures d'électricité, l'infrastructure énergétique et civile ukrainienne. On parle du chauffage, on parle de l'électricité, et il faut le rappeler, c'est des crimes de guerre, c'est quelque chose de tout à fait inédit dans le droit international, et le bilan ne cesse d'augmenter malheureusement au cours des heures qui viennent.
Voilà, 3 morts et plusieurs blessés pour l'instant. Merci Cyril Amonski en direct de Kiev. 7h35 sur BFM TV. Cette question ce matin, sont-ils privilégiés? Une fois de plus, les retraités échappent au couperet fiscal des députés. L'Assemblée a voté hier contre la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient.
Offrant ainsi un nouveau répit à cette catégorie déjà largement protégée. C'est ce que diront en tout cas certains. Les retraités ne paieront donc pas plus d'impôts, mais l'abandon de cette mesure a un coût de plus d'un milliard d'euros pour les caisses de l'État. Célia Jusfredi avec Milan Argelas.
Quand nous leur apprenons la nouvelle hier... Okay.
Bah écoutez, tant mieux.
Ces retraités que nous avons rencontrés ne cachent pas leur soulagement.
Déjà, nos retraites ne sont pas épaisses. Et si on lui rabote encore les petits avantages, eh bien, c'est quand même mieux.
Pour les retraités qui ont travaillé toute une vie et qui se sont investis comme moi, on mérite bien d'être attentionné, d'avoir de l'attention auprès de nous et du respect.
Le gouvernement souhaitait remplacer l'abattement de 10% pour les retraités par un montant forfaitaire de 2000 euros pour chaque foyer. Les députés ont largement rejeté cette réforme hier.
C'est une très belle victoire. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Quand vous êtes salarié, vous payez votre impôt sur le revenu avec 10% d'abattement. Pourquoi, quand vous seriez retraité, vous perdiez davantage d'impôt sur le revenu alors que vous gagniez moins? Ce serait incompréhensible que quand on devienne retraité, on gagne moins parce qu'on a la retraite et la retraite est inférieure au salaire et qu'en plus, on paye plus d'impôts.
Guillaume Casbarri en fait partie des seuls à avoir voté contre la suppression de ces articles. Le député EPR fustige la position de ses collègues.
On a d'un côté des députés qui ont peur de tenir un langage de vérité auprès des retraités. Vous avez d'autre part des députés qui, par stratégie électorale, essayent de promettre tout et n'importe quoi en pensant que les retraités vont du coup voter pour eux.
Selon Bercy, cette mesure aurait rapporté 1,2 milliard d'euros dans les caisses de l'État.
Tout sera fait pour empêcher une nouvelle attaque. Les mots hier soir d'Emmanuel Macron, 10 ans après les attentats du 13 novembre, les plus meurtriers jamais commis en France.
Oui, le chef de l'État qui a mis en garde contre une autre forme de djihadisme intérieur, insidieuse, moins détectable, a dit le président. Au terme d'une journée de commémoration, il a inauguré un jardin mémoriel au cœur de Paris en hommage aux 132 victimes de ces attaques. Allez, 7h37 sur BFM TV. Trouver une place de parking le matin quand on se garer, quand on arrive au bureau, c'est parfois une galère, un vrai cauchemar pour bon nombre d'automobilistes. Et c'est particulièrement vrai, Périne, dans les grandes villes.
Oui, mais ça pourrait bien appartenir au passé, ça, puisque ces petits tours comme ça de quartiers interminables pourraient bien être terminés grâce à l'intelligence artificielle qui s'invite, figurez-vous, dans vos voitures en vous aidant à repérer les endroits où précisément il y a de la place. Le système est actuellement en test à Paris. Regardez ce sujet de Jérémy Brossard.
Trouver une place pour se garer à Paris, c'est toujours compliqué, mais il paraît que dans ce secteur du 17e arrondissement, grâce à une appli, c'est beaucoup plus simple. On va tester.
Nous sommes guidés par près de 150 capteurs comme celui-ci, des données disponibles via une application sur votre téléphone pour vous aider dans votre recherche.
En rouge, les zones où il est quasiment impossible de trouver une place. En bleu, apparemment, il y a des places libres. On va aller voir si c'est le cas.
La promesse, gagner du temps, moins de bouchons, moins de pollution. L'application reconnaît même les places livraison ou handicapées.
Bon, on a dû tourner un petit peu dans le quartier, mais ça y est, petite place, mais on s'est garé. Vous connaissez cette appli ?
Ah non, pas du tout, je connais pas. C'est une catastrophe de pouvoir se garer à Paris.
Une manière pour la mairie d'arrondissement d'améliorer le quotidien des automobilistes, mais aussi des riverains. En 20 ans, une ville comme Paris a perdu près d'un tiers de ses places de stationnement.
Une voiture sur 4 qui circule cherche à stationner. Autrement dit, 25% de la pollution des véhicules roulants est liée à la recherche de stationnement.
C'est une start-up française qui a développé cette technologie basée sur l'intelligence artificielle, mais qui préserve l'anonymat des données recueillies.
On n'a pas la capacité technique de pouvoir lire une plaque, reconnaître un visage, ou je sais pas, avoir des spécificités physiques des personnes qui passent devant.
L'entreprise française espère désormais installer sa technologie à Monaco, Cahors ou encore Santa Monica.
On est à 40 jours de Noël. C'est Dominique ce matin qui a commencé à compter les jours. Tellement il est impatient.
41 dodo, 40 jours.
Il a un calendrier de l'Avent.
C'est un petit peu plus tôt l'Avent, effectivement. On a déjà acheté le calendrier.
Et le sapin, vous l'avez déjà acheté chez vous ?
Non, le sapin, il est artificiel chez moi.
Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que vous l'avez déjà sorti ?
Non, on aura un autre débat sur le sapin.
Attendez, est-ce que vous l'avez déjà sorti ?
Non, pas encore. J'attends encore un petit peu.
C'est quand les décos ?
J'attends encore un peu. Les décos, c'est dans deux semaines. La date est notée dans la
journée. Il m'a raconté qu'il avait un petit rituel. On peut le raconter, le rituel, ou pas ?
30 novembre, c'est très bien.
30 novembre, ouais, absolument, pour qu'il soit prêt pour l'Avent.
Exactement.
On a des traditions avec François.
On peut raconter votre rituel ?
C'est quoi le rituel ?
Famille ? Alors, si vous voulez raconter ça.
On fait le sapin et on regarde Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2 avec les enfants.
Tous les ans, on va parler
des boules de Noël, parce que regardez, au rayon des boules de Noël, on vous présente Grippe ce matin. Oui. Il y a Thomas Armand qui nous attend. Véritable œuvre d'art que l'on doit au Centre international d'art verrier, installé au cœur du massif des Vosges. Et cette boule en verre, donc normalement fragile, elle a la particularité, Thomas, d'être antidérapante.
Oui, alors si je la jette au sol, elle casse hein, quand même. Hein. C'est juste vraiment la notion d'antidérapant. Regardez avec ces petits traits où là, on l'a bien en main. 28 euros pour cette boule, fabriquée ici à Mezenthal. Vous avez toutes les couleurs, du rouge, du transparent et bien d'autres. Il y en a pour tous les goûts, à retrouver notamment ici au Centre Verrier. Mais vous allez me dire, comment on fabrique justement ces boules de Noël? Bah, regardez autour de nous, nous avons Sébastien ce matin. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Là, qu'est-ce que vous allez faire Sébastien? Racontez-moi.
Je vais cueillir le verre incolore dans le four.
Donc là, nous avons un four qui est à plus de 1000 degrés, 1150 degrés, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Et là, l'idée, c'est quoi pour vous? De récupérer du verre?
De cueillir du verre pour avoir suffisamment de matière pour réaliser la boule grip.
Donc là, vous allez légèrement le façonner, la regarder.
C'est ça, je vais le maillocher.
C'est tout de même une opération assez délicate, puisque à chaque étape de fabrication, il faut faire en sorte que le verre reste suffisamment chaud, sinon, eh bien, ça interrompt le processus de fabrication. Là, qu'est-ce que vous allez faire ensuite, Sébastien, après?
J'en taille un petit peu et puis je vais aller réchauffer ma matière, puisque le verre, c'est une matière qui refroidit très vite.
Donc là, vous voyez, l'idée, c'est d'aller réchauffer donc, entre deux étapes ce verre. Et puis, vous avez une étape qui est plutôt sympa visuellement. Regardez juste ici. Là, où vous allez maintenant, Sébastien?
Je vais chauffer dans la canne pour percer le verre avec l'air.
Là, on a introduit donc du verre. Et ensuite,
je vais chauffer et puis je vais aller... préparer mon verre pour aller souffler donc la boule grip dans le moule.
Pour vous donner une petite idée, en fait, pour chaque couleur, vous avez en fait du verre qui est concentré pour donner la teinte donc du verre. Et puis là, vous avez donc la nouvelle étape où on va commencer à avoir une légère forme ronde. Et en fait, ça passe dans des moules, tout simplement, pour donner cette petite forme de la boule que je vous ai montrée avec ses traits antidérapants. Le moule est juste ici, regardez. Là, on va souffler donc à la machine maintenant.
C'est ça, c'est un piston qui envoie de l'air comprimé pour bien imprimer le décor.
Et là, maintenant, on retrouve la forme. Ah, regardez, vous avez la couleur et la forme.
Le verre se fige.
Cette forme, elle est particulière. Pourquoi, Sébastien?
Bah, elle a été étudiée pour qu'elle soit antidérapante, pour ne pas glisser. Donc, c'est une boule qui est ronde, qui est normalement très glissante. Et là, avec le petit décor, ça fait que la boule est antidérapante.
Merci beaucoup Sébastien. Je vous laisse finir sur cette image. Regardez, où on va maintenant poser la boule et décrocher. Regardez, voilà. Il nous reste juste l'entache maintenant pour que vous puissiez quand même l'accrocher sur votre sapin. Je termine sur ce succès quand même des boules de Mezenthal. Vous pouvez les retrouver depuis hier ici au centre de Mezenthal, mais également sur certains marchés de Noël, dont le mythique marché de Noël de Strasbourg. Il y a tellement de succès malgré son prix de 28 euros prix de départ, et bien que c'est limité à 2 articles par personne.
Bon, c'est fascinant en tout cas. Et je note quand même que vous n'avez pas pris la boule entre les mains. Mais c'est vrai qu'on connaît un petit peu votre maladresse. Il vaut mieux pas, même si elle est antidérapante. Merci Thomas, merci à Vincent Serron. Tout de suite, vos rendez-vous culture politique internationale.
Votre rendez-vous avec ACMI, le spécialiste français des infrastructures IBM Power, mainframe, stockage et cloud. Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque.
On va prendre des nouvelles de Sébastien Lecornu ce matin avec vous, Arthur Berda. Un mois après sa renomination à Matignon, on a connu, disons-le, des premiers ministres moins discrets.
Non, c'est vrai, Sébastien Lecornu, il est très discret. Pour autant, il s'active en coulisses pour faire la pédagogie de son action, notamment en matière budgétaire. Et alors, pour l'instant, il porte un regard assez mitigé sur la situation. À la fois, il est rassuré de voir que l'Assemblée a été capable de s'entendre samedi soir pour voter la partie recette du budget de la Sécu. Il y voit un signal positif. Et en même temps, il ne se fait pas d'illusions sur les chances quasi nulles d'adoption d'un quelconque texte dès la première lecture. En fait, il fait le pari que le filtre à café, c'est son expression, de la navette parlementaire va faire son œuvre en éliminant progressivement les irritants des uns, comme le doublement de la taxe GAFAM, et en assouplissant les exigences des autres, comme le dégel des pensions de retraite ou du barème de l'impôt. Autrement dit, il veut croire que l'on finira bien par atterrir, bon an mal an, sur un texte qui sera votable par les deux chambres d'ici la fin de l'automne. C'est en tout cas la seule issue qu'il envisage, parce que contrairement à ce que certains imaginaient, non, Sébastien Lecornu ne veut pas revenir sur sa parole, et donc il ne veut pas avoir recours ni au 49-3 ni aux ordonnances. Autrement dit, il veut responsabiliser le Parlement à tout prix, y compris si cela doit lui coûter une censure.
Donc c'est un Premier ministre dont la vie ne dépend que du budget.
Et en tout cas, ce qu'il aimerait, c'est que sa vie ne dépende pas que du budget. Pour l'instant, c'est le cas, mais il voudrait qu'il en soit autrement. Et c'est pour cela qu'il a décidé d'organiser son gouvernement en différents pôles. Alors, les ministres ne sont pas connus, c'est le problème hein, quand on prend des techniciens qui sont aussi experts qu'anonymes. Mais leurs thématiques, elles sont identifiées. Il y a d'abord un volet régalien qui a été prioritairement chargé d'avancer sur la question de l'Algérie et d'obtenir des résultats avec un mot d'ordre assez c'est cash, je vous le donne en mille. Ne ramenez pas votre gueule, mais ramenez Boualem Sansal, objectif atteint depuis deux jours, même s'il reste désormais Christophe Glaise à libérer. Et puis, il y a ensuite un môle territorial qui doit avancer sur cette promesse de la décentralisation maintes fois annoncée, jamais mise en œuvre. Et enfin, un dossier plus agricole avec cette question explosive du Mercosur qui vient de revenir sur le devant de la scène, sans compter toutes les urgences qui s'ajoutent par ailleurs. C'est le principe quand on est à Matignon. Vous savez, l'enfer de Matignon, on dit que les emmerdes remontent toutes à Matignon, comme par exemple, ça a été le cas avec l'affaire Chine. Bref, les sujets ne manquent pas. Ce qui risque de manquer en revanche, c'est à la fois le capital politique et peut-être aussi un peu de temps.
On ne ramenait pas votre gueule, il parle comme ça, Sébastien Lecornu.
En tout cas, c'est ce qu'il a dit à ses ministres.
Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National de la Somme, sera l'invité à 8h30 d'Apolline de Malherbe dans le face-à-face.
François, le gouvernement du président Zelensky est secoué par les rebondissements depuis lundi d'une nouvelle affaire de corruption touchant deux de ses ministres et l'un de ses proches. Un poison qui, selon vous, François, oblige l'Europe à aider l'Ukraine à se désintoxiquer.
Bien sûr, parce que on le sait, la corruption, c'est le mal endémique de l'Ukraine. Il ne date pas d'hier matin, il date des années 90, au moment de l'indépendance du pays, parce que le pays avait vécu pendant très longtemps sous l'influence des oligarques soviétiques, puis russes, dans leur collaboration, leur coopération, leur relation incestueuse avec les hommes d'affaires ukrainiens. Pour mesurer l'ampleur de ce scandale, il faut bien comprendre que l'enquête durait depuis plus d'un an, qu'il y a eu un nombre incroyable d'écoutes téléphoniques, 1000 heures en tout, qu'il y a eu des dizaines de raids et de perquisitions effectuées au domicile des principaux suspects dans cette affaire. Et donc, ce sont les services anticorruption ukrainiens. Ils ont eu besoin de l'aide de personne, pas même des Européens ni des Russes, pour pouvoir débusquer effectivement ces entreprises de pot de vin dans le secteur de l'énergie, qui est le secteur crucial parce que, effectivement, vous l'avez dit ce matin, le plus touché par la guerre. Donc, tous les contrats de réparation, de maintenance, effectivement, il y avait des hommes peu scrupuleux qui touchaient des pots de vin et qui ensuite allaient faire blanchir l'argent.
Pardon François, mais ça pose quand même une question, celle de la confiance qu'on peut avoir dans un pays, l'Ukraine, qui vit quand même sous perfusion occidentale depuis le début de la guerre.
On a totalement raison de se poser la question, mais on aurait totalement tort de se dire, surtout, arrêtons d'aider l'Ukraine parce qu'il y a de la corruption. Parce que c'est précisément parce que l'Europe a des standards anticorruption les plus élevés au monde que nous pouvons, dans les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, obliger l'Ukraine à s'en tenir à ses standards, à progresser. Et elle progresse depuis même les 4 ans du début de la guerre. Et regardez ce que disait la commissaire européenne à l'élargissement, hier qui s'exprimait, Madame Marta Kos, elle est slovène elle-même, la lutte contre la corruption est le plus important, le plus difficile des défis pour tous les pays candidats, pas uniquement pour l'Ukraine, pour tous les autres qui sont derrière. Et donc, quand vous voyez qu'hier, le ministre des Affaires étrangères ukrainien était à Londres, Londres a signé un pacte de 100 ans de soutien à l'Ukraine. Vous pensez qu'ils l'auraient fait si ils se disaient qu'il y a des problèmes de corruption ? Non, ils le font, parce que si on ne le fait pas, si on n'aide pas l'Ukraine, elle tombe sous la botte russe.
La Russie qui a de nouveau attaqué l'Ukraine cette nuit avec une attaque massive sur Kiev. On y reviendra dans le journal de 8h.
Allez, la musique, la culture avec vous, Steven Bellery. Et le retour d'un grand monsieur. On a de la chance parce que c'est ce matin sur BFM TV. Alain Souchon publie aujourd'hui Studio Saint-Germain. Alors, ce n'est pas un nouvel album de chansons inédites, mais une sorte de best-of acoustique, enregistré avec ses deux fils, Steven Bellery. Vous avez rencontré les Souchon, les trois Souchon, ouais, pour BFM Première.
On rembobine mai 2024, ils décident tous les trois de partir en tournée. Les fistons ont choisi les chansons et ces arrangements très épurés, guitare, voix, piano, rien d'autre. Plutôt que de sortir un album live, ils se sont dit, bah tiens, si on allait en studio, au studio Saint-Germain à Paris, enregistrer comme ça, immortaliser cette couleur, voilà cette délicatesse de ces versions. Cadeau pour BFM TV devant la caméra de Nicolas Béart, les Souchon nous chantent un baiser.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées par une inconnue.
Et le résultat, il est merveilleux, Steven. 15 chansons et autant de moments de grâce.
Oui, l'amour à la machine, la vie ne vaut rien, j'ai 10 ans, RAM, les standards sont tous là avec un petit supplément d'âme, on appelle ça le lien filial, testé et approuvé au cours de leurs 150 dates de tournée.
Sortez ces éléphants de l'hiver, les adamants passés à couvert, donnant à la voiture.
joueurs qui jouent, les quatre personnes sont forcément liées par quelque chose de fort. Et ben nous, il y a le fait qu'on soit de la même famille, père-fils, mais en plus, il y a ce lien-là qui vient s'ajouter. C'est assez marrant à vivre.
Enfin, moi, je suis très fan. J'ai un poster de lui dans ma chambre et j'ai des tasses, des mugs avec sa tête dessus.
Alors quand on écoute toutes ces chansons à la suite, on réalise eh bien à quel point Alain Souchon en fait fait partie de la mémoire collective. A-t-il la sensation comme nous qu'il a bâti une œuvre? C'est la question qu'on lui a posée.
Bah bien sûr, considérable. Non, pas du tout. On fait des chansons au fur et à mesure comme ça. On se dit pourvu que ça aille, ça. Est-ce que ça plaît? Ah ouais, ça plaît. Bon, ben voilà. Non, on n'a pas l'impression de faire une œuvre. Non, on se faufile. Moi, j'ai l'impression de m'être faufilé dans la vie. J'étais incapable de faire des études. Après, le fait de faire des chansons et qu'elles marchent bien, ça m'a beaucoup aidé à vivre.
L'album sort aujourd'hui, fin de la tournée, fin février.
Studio Saint-Germain, on va écouter ça avec plaisir. Merci, Steven.
On se retrouve dans quelques minutes pour le grand journal de 8h. La guerre des députés contre les fast-foods. Les écologistes proposent de taxer l'ouverture de nouveaux restaurants franchisés avec un montant encore plus élevé à proximité des écoles. On vous explique tout. Merci de débuter la journée avec BFM Première. On est ravis avec Dominique et toute l'équipe de vous accueillir à la une ce matin. La guerre des députés contre les fast-foods. Les écologistes proposent de taxer l'ouverture de nouveaux restaurants franchisés avec un montant encore plus élevé à proximité des écoles.
Cette nouvelle fusillade à Marseille, un jeune homme de 20 ans a été tué par balle hier. Nous retrouverons en direct depuis la cité phocéenne Alexis Puyette.
Tout ça pour ça, un braquage qui laisse dubitatif les riverains à Roubaix. Des malfaiteurs ont utilisé des explosifs pour attaquer un bureau de poste. Mais voilà, les sacs de billets étaient vides.
Et puis à 8h30, l'invité d'Apolline de Malherbe dans le face-à-face, Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National de la Somme.
Près de 9 Français sur 10 fréquentent les fast-foods. Burger King vient d'ouvrir un 600e établissement. Le secteur prospère, et ce, alors même que celui de la restauration traditionnelle, lui, est en difficulté.
Alors forcément, ça donne quelques idées aux députés qui cherchent de l'argent. Faut-il taxer l'ouverture des restaurants franchisés, notamment pour freiner leur expansion? C'est l'objet d'un amendement porté par les écologistes. Explication avec Saskia Juinet-Dubinski, Edgar Becker, Hortense Gérard et Milan Argelas.
Chaque année, ils entrent un peu plus dans notre quotidien. Pour limiter le développement des fast-foods, ce député écologiste porte un amendement pour les taxer.
Il y a un vrai enjeu sanitaire. Donc l'objectif de cet amendement, c'est justement de taxer ces fast-foods qui s'installent. Pas n'importe lesquels, on ne va pas taxer une boulangerie, évidemment. C'est plutôt les grosses chaînes, les franchisés.
L'amendement prévoit une taxe de 50 000 euros à l'ouverture d'un établissement. Dès l'année suivante, le franchisé devra s'acquitter d'une taxe de 10 000 euros à payer chaque année. Pour un restaurant installé à moins de 300 mètres d'une école, il faudrait payer le double, 100 000 euros à l'ouverture, puis 20 000 chaque année. Les grandes chaînes de restauration se développent partout en France. Cette semaine, pour l'ouverture de son 600e restaurant, Burger King choisissait Grand Quevilly, en Seine-Maritime.
Et ça fait plus proche de chez moi.
Mon travail est juste à côté, donc c'est l'occasion de venir de temps en temps.
S'installer dans les petites villes pour se rapprocher des clients, la stratégie est assumée par l'enseigne, mais risquée selon ce spécialiste.
Quand vous allez en milieu rural, vous avez une clientèle qui est mécaniquement plus âgée que les urbains. Or, leur communication s'adresse plutôt à des jeunes. Le deuxième risque que je vois, c'est que McDo l'a fait le premier. Je pense que d'aller à deux en milieu rural, il n'y aura pas assez de marché pour faire vivre correctement les deux.
L'amendement pour taxer les fast-foods devrait être examiné ce week-end par les députés.
Et puis tandis que les discussions autour du budget ont repris à l'Assemblée, cette inquiétude ce matin, l'inquiétude du ministre du Travail Jean-Pierre Farandou dans les colonnes du Parisien. Il se dit inquiet du déficit. Notre objectif était de le réduire de 23 à 17 milliards d'euros. Aujourd'hui, selon nos calculs, il pourrait atteindre 24 milliards, précise-t-il. Il déplore la difficulté à faire voter des économies et en appelle à la responsabilité de tous les parlementaires.
À Marseille, cet assassinat en plein jour qui ressemble à une opération d'intimidation, la mort violente d'un jeune homme de 20 ans tué par balle, c'était hier à 14h30 dans le 4e arrondissement de la ville. La victime était au volant d'une voiture lorsqu'un motard s'est arrêté à sa hauteur, a tiré à bout portant. Plusieurs étuis de 9 mm ont été retrouvés sur la scène de crime.
Ah oui, c'est inquiétant, oui, c'est inquiétant. Et puis là, jour et nuit, voilà, c'est ça quoi.
On déconne, une balle perdue.
Dans tous les cas, c'est pas
votre vie, elle part comme ça.
On n'est pas en sécurité, apparemment.
Ça, ça vous inquiète?
Et ouais, vraiment. Pour qu'ils viennent tuer quelqu'un comme ça en pleine journée dans sa voiture, c'est qu'on n'est pas en sécurité.
On vous retrouve à Marseille, Alexis Pluyette. Alors pour l'instant, pas de piste avancée par les enquêteurs, mais la victime est le frère d'une figure locale, un homme engagé dans la lutte contre le narcotrafic.
Oui, et cette figure politique locale, c'est Amine Kessassi, très connu ici notamment pour son engagement pour l'écologie. Il était candidat aux législatives 2024, nouveau Front Populaire, battu sur les fils. Et ce qu'il a vraiment fait connaître ici, eh bien, c'est son engagement contre le narcotrafic. Le déclencheur, si je puis dire, eh bien, c'est la mort de son frère en décembre 2020, retrouvé carbonisé dans une voiture. Amine Kessassi a alors 17 ans. Il décide de créer l'association Conscience, une association d'aide aux familles de victimes. Et donc, il prend la parole publiquement pour dénoncer l'emprise des réseaux de narcotrafic à Marseille et aussi les victimes de plus en plus jeunes. Alors, hier, eh bien, l'histoire tragique s'est répétée, malheureusement. Amine Kessassi a perdu un autre de ses frères, très jeune, lui aussi, 20 ans. Il était engagé, lui aussi, contre le narcotrafic. Alors, nous avons parlé à l'entourage d'Amine Kessassi qui nous dit qu'il était menacé depuis plusieurs mois, visiblement, son combat dérangeait et il est sous protection policière permanente depuis le mois d'août. Son petit frère, qui est tombé sous les balles, lui, il rêvait d'être policier.
Voilà, et à l'instant, le procureur de Marseille évoque l'une des hypothèses, la piste d'un assassinat d'avertissement, une piste qui ne peut pas être exclue, c'est ce que dit à l'instant le procureur de Marseille. Alexis Pluyette. L'image de la nuit, maintenant, nous emmène en Ukraine, Perrine.
La capitale ukrainienne, Kiev, qui a été ciblée par une vaste attaque de missiles et de drones russes. Selon les autorités locales, plusieurs immeubles résidentiels ont été tués. Le bilan fait état d'au moins 3 morts, 26 blessés. Le maire, Vitali Klitschko, a appelé les habitants à rejoindre les abris. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers de la ville.
À 8h05 sur BFM TV, on voulait vous emmener à Roubaix ce matin après le braquage spectaculaire d'un bureau de poste et un butin non moins spectaculaire. Vous posez peut-être la question, des liasses, des sacs remplis de liasses de billets. Eh bien non, des sacs vides.
Ouais, gros loupé pour ces malfaiteurs qui, en plus, visiblement, vous allez l'entendre selon Dominique Rizet, étaient quand même des malfaiteurs aguerris. De quoi alimenter les commentaires ironiques des riverains. Un récit de Barbara Durand.
La scène, digne des plus grands films d'action, a été filmée depuis la terrasse de ce café.
Bah ouais, je te le dis.
Des hommes, cagoulés, vêtus de gilets jaunes, font exploser un coffre de transfert, là où les convoyeurs déposent des fonds destinés à alimenter des distributeurs. Leur butin, un sac sans billets, rempli de sachets vides, destinés au transport d'argent. Les riverains n'en reviennent toujours pas.
Toujours pour rien.
Ils ont fait ça pour rien. Donc ils se sont fait avoir. Eh bien, c'est bien fait pour eux.
Moins de 24 heures après les faits, 6 personnes ont été interpellées hier par la BRI. Ce casse raté semble pourtant avoir été perpétré par des cambrioleurs expérimentés.
Ces hommes-là ne sont pas n'importe qui puisqu'ils attaquent ce coffre-fort avec un système qui est connu des spécialistes, en tout cas des grands braqueurs, qui s'appelle la charge creuse. C'est un système qui permet, avec de l'explosif posé à l'intérieur et un système de mise à feu électrique, en scotchant le cadre sur la paroi, d'obtenir une découpe parfaite.
Les 6 interpellés ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et destruction de biens par moyen explosif en bande organisée.
Les Bleus sont officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde l'été prochain après une large victoire hier soir 4-0, notamment grâce au capitaine Kylian Mbappé. C'était face à l'Ukraine.
Et outre l'enjeu sportif, hier soir, il y avait aussi, évidemment, dans toutes les mémoires, le souvenir douloureux du 13 novembre 2015. Ce soir-là, les Bleus jouaient au Stade de France. Une rencontre hier soir forcément symbolique, 10 ans après. Joël Crolbois.
L'unité et l'émotion, le temps d'un instant, 10 ans après l'horreur du 13 novembre.
Le stade entier a respecté la minute du silence pour montrer à quel point ça compte pour les Français. On voulait montrer que c'est la chose qui primait aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion et beaucoup de solidarité, parce qu'on a touché à notre pays et on est tous solidaires quand on s'attaque à la France.
Au second plan, un match pourtant très important, Une victoire et les Bleus seront officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Après une première période poussive, Kylian Mbappé met d'abord son équipe sur la voie. Michael Olise ensuite, puis Mbappé pour son 400e but en carrière poursuivre le récital. Un quatrième but signé Hugo Ekitike qui vient composter le billet pour le Mondial. Une qualification, tout sauf anodine.
Beaucoup de fierté, bien évidemment. Il ne faut pas banaliser, nous on ne banalise pas.
Prochaines étapes pour les Bleus, un dernier match dimanche en Azerbaïdjan et le tirage au sort de la Coupe du Monde, le 5 décembre prochain.
Allez, dans un instant, dans moins de deux minutes, la suite de votre grand journal avec notre enquête sur le gourou Raël, une ex-adepte de la secte, porte plainte contre lui. Elle raconte avoir été son esclave sexuelle pendant sa jeunesse. Vous entendrez son témoignage.
Et puis l'écho avec Emmanuel Lechypre, alors que le taux de chômage a encore augmenté au troisième trimestre. Il nous dira, Emmanuel, quel est le profil des demandeurs d'emploi avec une étude qui casse un petit peu, vous le verrez, les idées reçues. On est de retour tout de suite sur BFM TV.
La suite de votre grand journal de 8 heures avec ce témoignage bouleversant, celui de Lydia Adjara. Aujourd'hui, elle a 43 ans et elle affirme avoir été dans sa jeunesse l'esclave sexuelle du gourou Raël. Elle a porté plainte pour viol, pour acte de torture et barbarie.
Raël ou Claude Vorillon, c'est son vrai nom. Il vit désormais en exil au Japon. C'est l'enquête du journal de 8 heures. Elle est signée Vincent Ventigem, Valentin Rivolier, Nicolas Coadou avec Blandine Nalena.
C'est à l'âge de 4 ans que Lydia dit avoir intégré avec ses parents le mouvement fondé par Raël.
Ma maman a eu les messages de ce monsieur par une collègue de travail. Elle a eu la révélation.
Une sorte de colonie de vacances dans ses yeux d'enfant, comme elle nous l'explique, mais qui prend une tournure bien différente lorsque Raël la remarque alors qu'elle n'a que 10 ans.
Ça bascule à l'âge de 13 ans, où là, pendant des stages raéliens, je mange avec un évêque, justement, un haut placé. Et il me dit que pour l'avenir, pour servir le prophète, je dois apprendre à lui faire des fellations. Donc il me guide.
Et c'est à sa majorité que Lydia nous explique être devenue l'une des esclaves sexuelles du gourou, Claude Vorillon, de son vrai nom.
Quand il avait envie de moi, j'étais là, je pouvais être là plusieurs fois par jour juste pour ça. J'avais cette fonction-là et j'avais la fonction d'être à son service, dans son intendance, lui faire à manger, lui faire son ménage.
Ce mouvement spirituel, considéré comme une secte depuis 1995, a été fondé par Claude Vorillon pour accueillir les extraterrestres sur Terre, tout en prenant une très grande liberté sexuelle, y compris vis-à-vis des enfants. Lydia a quitté ce mouvement à l'âge de 25 ans et presque 20 ans plus tard, elle a décidé de porter plainte, notamment pour viol et actes de torture ou de barbarie. Cette plainte vise Claude Vorillon, aujourd'hui âgé de 79 ans et exilé au Japon, mais aussi deux de ses condisciples.
Il y a une grande partie des faits qui pourraient être considérés comme prescrites par les juridictions. Mais il est vrai que médiatiser ce dépôt de plainte a pour objectif principal de faire revenir vers la justice d'autres victimes.
De son côté, l'avocat de Claude Vorillon nous affirme ne pas avoir été avisé de la plainte déposée contre son client, une plainte qu'il juge irrecevable, infondée et qui porte sur des faits prescrits.
À 8h14, on voulait vous emmener aussi ce matin avec Perrine à Verdun, dans la Meuse. Verdun, pourquoi Verdun? Parce que la polémique enfle autour d'une messe en hommage au maréchal Pétain.
Elle est prévue normalement demain, mais le maire de la ville a interdit la cérémonie. Il demande l'intervention du ministre de l'Intérieur. L'association, elle, veut maintenir cette messe. Elle a déposé un recours. Le tribunal de Nancy doit trancher ce matin à 11h. De quoi raviver un sujet toujours aussi sensible dans cette ville hautement symbolique. Isor de la Gorce.
C'est dans cette église de Verdun qu'une association souhaite célébrer demain une messe en hommage au maréchal Pétain et à ses soldats. Sur place, l'initiative scandalise ses habitants.
Je pense qu'il vaut mieux éviter ça. C'est un petit peu oublié tous ceux qui ont été déportés, tous ceux qui ont été fusillés, les maquisards, tout ça.
On ne réhabilite pas quelqu'un comme ça, surtout quand même que c'est grave, hein, la guerre et tout.
Le maire de Verdun a adressé hier un courrier au ministre de l'Intérieur. Il demande à Laurent Muniez d'interdire cette messe.
Historiquement, politiquement, on ne peut pas honorer la mémoire de celui qui a déshonoré la France républicaine.
Mais l'association assume, son président défend coûte que coûte le projet.
C'est une sorte de procès d'intention, quoi. Et nous avons été quand même interloqués de voir que cette simple messe pacifique, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 11 novembre sur le maréchal lié à la Première Guerre mondiale, fasse loger d'un intérêt.
L'association a attaqué en justice l'arrêté municipal interdisant la messe. Le tribunal administratif de Nancy rendra dans la journée sa décision.
Philippe, Pétain, héros de 14-18, avait été frappé d'indignité nationale après la Seconde Guerre mondiale. François, comment on explique qu'il existe encore aujourd'hui des initiatives pour rendre hommage au maréchal ?
Parce que il ne fait aucun doute que Philippe Pétain a été un grand soldat, a été un grand commandant de l'armée et a été l'un des héros de la Première Guerre mondiale. Mais je vais vous dire ce que disait le chef de cabinet militaire de Georges Clemenceau, le père La Victoire, le général Mordac, lorsque, en octobre 40, le statut des Juifs est adopté par le gouvernement de Vichy. Le général Mordac va voir Philippe Pétain et lui dit « Monsieur, vous venez de déshonorer à jamais l'uniforme de l'armée française ». C'est ça Philippe Pétain, c'est-à-dire un héros de la première et un salaud de la deuxième. Et ça, vous ne pouvez plus, à partir de ce moment-là, considérer qu'on peut rendre hommage comme si de rien n'était à celui qui a effectivement délivré la France de l'occupation allemande en 1918, mais qui a livré la France à l'Allemagne en 1940.
Merci François, le tribunal de Nancy rendra la décision ce matin à 11h, on suivra ça évidemment sur BFM TV. 8h17, on va parler de toute autre chose à présent, on va parler du temps qu'il fait. On va essayer de comprendre le renversement météo spectaculaire qui vous attend, parce que Perrine, Kevin, on va vivre quelque chose d'assez incroyable ce week-end.
Ah ouais, c'est spectaculaire. Ouais, on était pas mal là en terrasse.
On était plutôt bien, oui.
T-shirt pour certains, ciel bleu, la mer, plage. La plage, le pique-nique, douceur exceptionnelle, jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. On s'était cru au printemps, au début de l'été, et voilà ce qui va vous attendre. Désormais, regardez, la neige, le blizzard, le froid, l'hiver qui fait une entrée fracassante dans nos vies. J'exagère
ouais,
un peu, non ?
Vous exagérez un petit peu. En plus, il y a les effets sonores, les effets de lumière. Bon, en effet, on devrait retrouver quand même de la neige en montagne, Perrine, pour bien comprendre ce qui se passe. On va aller chercher déjà la provenance de cette masse d'air chaud qui nous concerne sur la France. Avec vous, vous en souvenez encore, il y a 24-48 heures, près de 30 degrés au pied des Pyrénées. C'est pas si très doux encore aujourd'hui. Et regardez l'autre masse d'air qui va nous rejoindre. En début, milieu de semaine prochaine, elle arrive du Grand Nord, du pôle, du nord de la Russie, et elle va descendre en direction de notre territoire. C'est ce qui explique, en fait, si vous voulez, les différences de température
annoncées. Donc, choc thermique. Ah, oui. Et concrètement, on va avoir quelle différence de température? Il faut s'attendre à quoi?
Oh, bah, 10 à 15 degrés en moins par rapport à ce que l'on connaît. Ah, ouais. Parfois jusqu'à 17, 18 degrés en moins, notamment vers la région centre. Alors là, c'est une carte qui n'est pas très précise. Attention, ouais. C'est pour jeudi prochain. Mais ça vous donne quand même une tendance. Regardez.
2 degrés.
Voilà, de moyenne le matin sur les régions du nord, 3 degrés sur les régions du sud.
Donc avec des gelées, oui. Et de la neige.
Exactement.
Coup, j'étais pas très loin. Ouais. Si on se projette un petit peu, les tendances pour l'hiver prochain?
Eh bien, les statistiques, la probabilité, les 3 prochains mois au-dessus des normales de saison, vous le voyez sur la gauche de votre écran.
Voilà, je note que Kevin a initié la tendance avec un joli col roulé ce matin. On tient d'ailleurs à féliciter
bah forcément.
Le travail des stylistes. Et puis je vais m'y mettre aussi au col roulé la semaine prochaine, j'ai bien compris. L'écho tout de suite. Alors, c'était l'une des promesses, hein. Il faut revenir à 2017 d'Emmanuel Macron. Emmanuel, en terminé. Avec le chômage, la baisse du chômage est-elle finie en France ?
Alors, c'était encore plus un objectif qu'une promesse. 5% de chômage en France, c'était effectivement, c'était le Graal en fait, en quelque sorte, hein, et ça n'était jamais produit en France depuis le milieu des années 70. D'ailleurs, comme les déficits publics, hein, c'est pareil, ça a commencé au milieu des années 70, mais ça paraissait encore atteignable comme objectif il y a 2 ans, 3 ans, puisqu'on était fin 2022 tombé à 7% quasiment de chômage. Il faut rappeler que au pic de 2015, on était à 10,5, mais là, ça monte effectivement au troisième trimestre, on est à 7,7% pour tout le monde quasiment. Il n'y a que le chômage des jeunes qui continue de diminuer.
Comment on l'explique cette augmentation ?
Il y a tout un tas de raisons. Il y a des raisons qui sont des raisons techniques, statistiques. Hein. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on intègre les bénéficiaires du RSA dans le décompte des chômeurs. Il y a des explications conjoncturelles, bien évidemment, le ralentissement de l'activité, l'incertitude politique. On a encore eu une étude hier qui nous dit qu'il n'y a que 2% des dirigeants d'entreprise qui veulent augmenter leurs effectifs au cours des prochains mois. Il y a des explications plus structurelles, la montée en puissance de l'intelligence artificielle, par exemple, qui est encore peu visible, mais qui est bien réelle. Vous avez quand même 46% des dirigeants d'entreprise qui disent qu'ils ont déjà supprimé des emplois à cause de l'intelligence artificielle. Et puis, vous avez la fluidification du marché du travail aussi, qui joue mettre un terme à un contrat de travail. C'est aujourd'hui plus facile, notamment avec la rupture conventionnelle. Il faut en finir un peu avec cette image du chômeur qui est la victime licenciée économique par un patron. Non, il y a la moitié des chômeurs aujourd'hui qui sont chômeurs à cause d'une rupture de contrat, une fin de CDD, fin de mission d'intérim, et la moitié qui sont aussi chômeurs suite à une rupture du contrat de travail. Et là, effectivement, les ruptures conventionnelles, c'est le hit. 18% sont des ruptures conventionnelles dans la rupture de contrat de travail.
Alors justement, à quoi faut-il s'attendre maintenant ?
C'est difficile de croire, au moins d'ici la prochaine présidentielle, puisqu'on peut raisonner à politique économique inchangée, que la situation va s'arranger et que la baisse du chômage va reprendre. Beaucoup a déjà été fait sur le durcissement de l'indemnisation du chômage. Il faudra accroître le bénéfice du retour à l'emploi, mais ça, c'est pas dans les tuyaux. Il y a les conditions de la rupture conventionnelle qui vont être durcies. Il faudrait évidemment augmenter les salaires pour faire venir plus de monde sur le marché du travail, mais le niveau des cotisations sociales et des impôts payés par les entreprises l'interdit. Là encore, une baisse des prélèvements serait salutaire, mais ça n'est pas la tendance. Et puis surtout, la productivité remonte après plusieurs années de baisse. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises fabriquent plus avec moins de salariés. C'est une bonne nouvelle pour la compétitivité, mais pas pour l'emploi. Et puis la seule tendance positive dans tout ça, c'est le vieillissement démographique qui fait qu'il y a moins de gens qui vont arriver sur le marché du travail. Donc il y a moins de gens à absorber sur le marché du travail.
Merci Emmanuel. Vous restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, le face-à-face à 8h30. Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement National de la Somme, invité d'Apolline de Malherbe.